Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour vos deux heures d'infos, de débat et de décryptage. Avec ce soir un grand entretien exclusif de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Il s'est confié pendant près d'une heure à Michel Denisot. Ses goûts musicaux, son amour du cinéma, de la boxe, l'exercice du pouvoir, ses doutes, ses regrets, ses ambitions. C'est une autre facette de l'homme politique que vous allez découvrir ce soir. Entretien en deux temps, à partir de 18h20, et puis deuxième partie à 19h20. Et on en parlera ensuite avec Michel Denisot dans le débat des grandes voix.
J'ai appris à la boxe plein de choses sur moi-même et probablement à maîtriser ma peur et probablement à avoir un peu plus confiance en moi.
Voilà, grand entretien à découvrir dans quelques instants. Avant cela, notre invité à 18h20 nous aidera à faire le point sur la situation sanitaire à quelques jours de la reprise de l'école et on en a besoin. L'épidémiologiste et directrice de recherche à l'INSERM, Dominique Costagliola. D'abord le journal avec vous Isabelle Millet, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
18h, bienvenue à l'écoute d'Europe 1.
Nous allons regarder tout ce qu'on peut faire avec les autorités du foot pour nous assurer que ce projet n'ira pas au bout, en tout cas dans la version proposée.
La bronca européenne contre la sécession du foot business après l'annonce de la création d'une super ligue européenne de foot en concurrence directe avec la Ligue des Champions.
Oui, c'est un séisme, on vous expliquera tout et les implications de cette annonce qualifiée par le patron de l'UEFA de crachat au visage de tous les amoureux du foot.
Dans ce journal également, Emmanuel Macron qui défend sa stratégie sécuritaire en visite à Montpellier.
Des nouvelles également d'Alexei Navalny, l'opposant russe dont la vie était en danger, a finalement été hospitalisé sous la pression internationale.
Didier François nous expliquera lui que Huawei est de nouveau accusé d'espionnage. Cette fois aux Pays-Bas, il aurait eu accès aux données de millions de clients de téléphones portables.
Et puis une première dans l'histoire spatiale, en attendant Thomas Pesquet, jeudi, la planète rouge survolée par un petit hélicoptère.
La Bourse de Paris a terminé en légère hausse de 0,15% à 6296 points.
La météo avec Anissa Haddadi. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Des nuages, ils reviennent demain.
Oui, le soleil sera souvent contrarié demain avec des averses aussi fréquentes sur la moitié nord. Mais, car il y a toujours un mais en météo, vous le savez, bonne nouvelle. Côté température, la douceur reste d'actualité demain. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et c'est donc un cataclysme qui secoue le monde du sport. 12 des plus grands clubs de foot européens qui décident de faire bande à part et d'imposer leurs propres règles.
Oui, ils lancent entre eux, en somme, une nouvelle compétition, la Super League. Parmi ces clubs, il y a notamment le FC Barcelone, Chelsea, le Real Madrid ou encore Liverpool. Autant dire des pointures.
Alors vous allez nous expliquer en détail de quoi il s'agit dans un instant, Simon Rubin. Mais d'abord, preuve que le sujet est explosif et dépasse même le monde du sport. Les politiques s'en mêlent, Emmanuel Macron notamment, qui salue la position des clubs français qui, eux, ont refusé de participer à un projet qui, dit Emmanuel Macron, menace le principe de solidarité et le mérite sportif.
Oui, ça n'est pas tout. Coup de gueule également de Boris Johnson, le Premier ministre britannique, sachant que 6 des 12 clubs impliqués dans ce projet sont anglais.
Nous allons regarder tout ce qu'on peut faire avec les autorités du foot pour nous assurer que ce projet n'ira pas au bout, en tout cas dans la version proposée. Je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle pour les fans ni pour le football anglais. Ces grands clubs ont une histoire liée à des territoires, à des villes, à des communautés locales et ça doit continuer ainsi. Voilà pourquoi je n'aime pas ce projet de Super League et nous allons réfléchir à ce qu'on peut faire.
Bonsoir Simon Rubin.
Bonsoir.
On entend Boris Johnson, manifestement outré par cette initiative. Alors, expliquez-nous Simon, ces clubs prestigieux qui se regroupent entre eux, quel est leur intérêt?
Eh bien, c'est évidemment l'argent avec cette Super League. Pas de place pour les petits. On ne garde que les clubs les plus connus pour n'avoir que des matchs prestigieux et donc des recettes en hausse. La Super League table sur 3,5 milliards d'euros de revenus à répartir entre les 20 participants. Chaque club gagnerait à peu près 4 fois plus que ce que touche le vainqueur de l'actuelle Ligue des Champions.
Et alors, en quoi ça pose problème, cette compétition concurrente, justement, de la Ligue des Champions?
C'est l'idée de l'universalité du foot qui est battue en brèche. Ce ne serait plus, à proprement parler, une compétition européenne, mais avec seulement 3, 4, voire 5 nations représentées. Cela reviendrait à créer, en fait, un autre football, un foot pour les riches, pour les clubs puissants, sans possibilité, pour les petits clubs méritants d'avoir leur chance.
Et est-ce que leur démarche a des chances d'aboutir?
Oui. Alors, on a un précédent, c'est le basket, qui a fait exactement moment la même chose. Hein. Les grands clubs ont réussi à créer leur propre ligue. Ceci dit, pour le foot, on a entendu Boris Johnson. Hein. Les oppositions, vous le disiez, elles sont nombreuses. Supporters politiques, clubs qui soutiennent cette vieille Ligue des Champions, le PSG et le Bayern de Munich en tête. Le patron de l'UEFA, on en a parlé, évoque un crachat au visage des fans de foot. Plus important sans doute, un grand diffuseur britannique, la chaîne BT Sport, annonce qu'elle s'oppose à ce projet. On sait que la diffusion télé, c'est le nerf de la guerre. Alors attention, il ne faut pas être naïf. Hein. Si les clubs puissants lancent cette Super League, c'est en sachant très bien qu'ils vont perdre des fans, hein, que les supporters purs et durs vont s'y opposer, mais en sachant aussi qu'ils pourraient gagner d'autres spectateurs plus jeunes qui ne s'intéressent qu'aux grosses équipes, qui sont fans des clubs, non pas à cause de leur histoire, mais parce qu'il y a des grandes stars qui y jouent. Cette Super League, en fait, elle cadre très bien avec ce foot mondialisé qui cherche à capter un public plus jeune, bien au-delà des frontières de l'Europe.
Merci beaucoup Simon Rubin du service des sports d'Europe 1. Alors les supporters, justement, qui ont découvert avec stupeur hein, cette annonce, autant dire que leur idée ne leur plaît pas du tout, comme en témoigne Ronan Evin, il est directeur de l'association des supporters européens.
Le rejet, il est massif. La crainte pour la majorité des supporters, c'est une distorsion complète de la concurrence, que ces 20 clubs, 15 ou 20 clubs, accaparent l'immense majorité des revenus du foot européen, accaparent l'immense majorité des joueurs, et au final, que nos championnats deviennent des championnats de seconde zone et que leur viabilité financière soit mise en danger. Parce que les promoteurs de cette Super League nous vendent un football plus ouvert, etc. Mais ce qu'ils nous proposent, c'est exactement l'inverse. C'est la concentration du football européen, de l'élite du football européen, dans les mains de quelques clubs, de quelques pays. On a aujourd'hui 3 pays, on en aura peut-être 5, 6, tous situés en Europe de l'Ouest. Et donc, c'est la fin de la diversité du foot européen.
Le directeur de l'Association des supporters européens, joint pour Europe 1 par Corinne Boulou.
Emmanuel Macron sur le terrain sécuritaire après son interview au Figaro ce matin. Visite à Montpellier aujourd'hui dans des quartiers dits sensibles.
Le chef de l'État qui promet que le gouvernement est en train de passer à la vitesse supérieure en harcelant les trafiquants et les dealers, qui ferment la porte aussi à la légalisation du cannabis, et puis qui promet de maintenir son objectif de 10 000 policiers supplémentaires d'ici la fin du quinquennat.
Oui, ce matin, il était auprès donc des forces de police et cet après-midi, le chef de l'État s'est rendu sur un ancien point de deal dans un quartier sensible, Hélène Terzian.
Oui, le président veut là aussi illustrer concrètement ce qu'il a déclaré ce matin dans le Figaro et ce qu'il a répété aujourd'hui. Tout le monde a le droit à une vie paisible. Alors, une fois arrivé dans ce quartier théâtre, il y a encore un mois d'une opération de démantèlement d'un point de deal, il s'est offert un bain de foule dans une atmosphère bon enfant.
Ouais, monsieur.
On ne veut pas qu'il traîne dans la rue.
L'efficacité d'une politique pour démanteler justement des points de deal. Et puis il y a un partenariat là qu'on est en train de construire avec la ville qui est très efficace. On met des moyens et on a des résultats.
Le président a ensuite pris du temps pour échanger, notamment avec une mère de famille qui reconnaît une présence accrue de la police pour mieux protéger les jeunes contre le trafic de drogue.
Là récemment, on a eu un incident qui est allé jusque dans l'école. Les familles sont extrêmement rassurées de voir la police régulièrement aux abords de l'école.
Il faut constater que c'est un travail commun entre les services de l'État, les services institutionnels.
Oui.
Voilà. La mairie de Montpellier.
Un déplacement du président qui s'achève avec une visite à la CAF pour montrer le travail des associations locales qui favorisent le lien police-population. Le président accueilli toutefois par les huées de centaines de manifestants criant « Macron, démission ».
Hélène Terzian à Montpellier sur Europe 1 et à l'instant le réquisitoire dans le procès de la BAC Nord de Marseille jusqu'à 6 mois de prison ferme requis contre les 18 policiers.
Alors vous le savez, c'est l'événement ce soir sur Europe 1. Une heure d'entretien entre Michel Denisot et l'ancien Premier ministre Édouard Philippe à la mairie du Havre. Entretien qui sera diffusé en intégralité entre 18h30 et 19h30, suivi d'un débrief avec les grandes voix. L'ancien Premier ministre qui se confie notamment sur sa relation avec Emmanuel Macron et son départ de Matignon.
Vous racontez dans votre livre la façon dont vous avez quitté le gouvernement après 3 ans, 1 mois et 18 jours, si j'ai bien compté. Est-ce qu'on peut considérer que l'amour dure 3 ans et que le 1 mois et 18 jours a peut-être été un peu trop quand on lit tous les détails de ce qui s'est passé à ce moment-là entre vous et le président de la République, où vous n'aviez pas forcément le même point de vue?
D'abord, le fondement de la relation entre un Premier ministre et un président, ce n'est pas une relation d'amitié ou une relation d'amour. C'est une relation de confiance et de travail. Et de bon travail, ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a fait, on l'a bien fait. J'en suis parfaitement conscient. Enfin, on a fait beaucoup de choses aussi et j'en suis aussi assez fier. Ensuite, il y a une prérogative qui est une prérogative absolue du président de la République, qui est le signe de sa prééminence au sein des institutions. Il choisit son Premier ministre. Quand il a envie d'en changer, il en change.
Oui, vous pourrez donc retrouver l'intégralité de cet entretien exceptionnel dans quelques minutes avec Michel Denisot à partir de 18h30.
Mia a retrouvé sa grand-mère. La petite fille de 8 ans avait été enlevée, vous le savez, la semaine dernière dans les Vosges et retrouvée saine et sauve hier en Suisse. Des nouvelles d'Alexeï Navalny, l'opposant russe qui était en grève de la faim depuis 3 semaines et dont la vie était en danger. Il a été transféré dans l'hôpital du camp dans lequel il est emprisonné.
Oui, une hospitalisation qui ne suffit pas à calmer les inquiétudes des Occidentaux, Damien Mestre.
Oui, l'Union européenne continue de mettre la pression sur le Kremlin. Les ministres des Affaires étrangères étaient justement réunis aujourd'hui pour évoquer le cas d'Alexeï Navalny. Ils demandent à ce que l'opposant russe ait un accès immédiat à des médecins, mais que ces médecins soient des personnes en qui il a confiance. Il faut dire que déjà des voix s'élèvent en Russie. Elles mettent en doute la sincérité de cette hospitalisation. Les alliés de l'opposant qui rappellent qu'Alexeï Navalny serait toujours, vous l'avez dit, entre la vie et la mort. Mais du côté du pouvoir russe, on balaye ces critiques. L'état de santé de l'opposant est jugé satisfaisant. Il a même reçu un traitement à base de vitamines, indique-t-on. Mais surtout, le porte-parole du Kremlin s'en est pris ce midi directement aux pays occidentaux qui réclamaient une hospitalisation. Il indique, je cite, « Nous ne pouvons pas accepter de telles déclarations de la part de représentants d'autres gouvernements. »
Merci Damien Mestre. La France porte une lourde responsabilité dans le génocide prévisible des Tutsis au Rwanda. C'est ce que dit un nouveau rapport, un rapport américain, cette fois commandé par Kigali, qui estime par ailleurs que la France savait qu'un génocide se préparait, mais a continué à porter un soutien indéfectible au régime du président Hutu.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h11, la suite du journal. On vous parle donc de ces nouvelles accusations d'espionnage qui touchent le géant chinois des télécoms, Huawei, suspecté d'avoir écouté des heures de conversations téléphoniques aux Pays-Bas.
Oui, c'est un sujet dont on avait beaucoup parlé au moment du déploiement de la 5G en France. Et ce n'est pas la première fois que Huawei est sur la sellette. Sauf que là, il vient de se faire prendre la main dans le sac. Et on en parle avec notre spécialiste des affaires internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Ce sont des accusations évidemment extrêmement graves.
Ah bah oui, parce que figurez-vous qu'au nombre des lignes compromises se trouvait celle de l'ex-premier ministre et de tous les membres de son gouvernement, ce qui fait beaucoup jaser aux Pays-Bas, puisque selon le quotidien qui lève le lièvre, leur communication aurait pu être enregistrée grâce à un serveur fourni par Huawei à l'opérateur hollandais de téléphonie mobile qui s'appelle KPN, mais auquel 6 techniciens chinois avaient accès pour des raisons de maintenance. C'est en tout cas ce que révèle le rapport commandé par les services néerlandais de contre-espionnage dès 2010, qui vient de fuiter, et dont les conclusions sont absolument dévastatrices pour le géant des communications, qui traîne déjà quelques sérieuses casseroles, créées par un ingénieur de l'armée populaire de libération, très lié au régime communiste. Huawei était déjà suspecté de servir de cheval de Troie aux organes de renseignement de Pékin. Et bien que l'entreprise s'en défende, un de ses cadres avait été arrêté et expulsé pour espionnage en Pologne en 2019 parce qu'il avait infiltré le réseau locage d'Orange, ce coup-là, au profit des services chinois. Il faut dire qu'une loi votée en 2017 fait obligation à tout citoyen et à toute entreprise de collaborer avec les structures sécuritaires chinoises et de taire cette collaboration sous peine d'emprisonnement.
Oui, alors ça ne va pas faire les affaires des pays, 170 pays pour lesquels Huawei a déployé du matériel de haute technologie comme la 5G, ça ne va pas rassurer les opinions publiques.
Alors effectivement, c'est le problème que pose ce rapport néerlandais, puisqu'on voit bien que les autorités chinoises peuvent se servir de la technologie Huawei pour se frayer un accès jusqu'aux informations politiques, économiques et même militaires les plus sensibles. Car dès lors que leurs techniciens auraient la main sur le matériel de communication d'un pays, alors les téléphones, les antennes relais, les répartiteurs ou les serveurs, eh bien ils auraient en fait accès au cœur de son système de décision. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les États-Unis, l'Australie et la Nouvelle-Zélande ont interdit à leurs administrations et à leurs fonctionnaires d'utiliser des équipements Huawei. Et à l'heure où l'Europe doit s'équiper pour l'Internet à très haut débit, il n'est pas totalement inutile de s'interroger sur des règles strictes à édicter avant d'autoriser une compagnie comme Huawei à concourir comme fournisseur de matériel aux grands opérateurs européens.
Merci Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans Europe Soir.
On a entendu des cris de joie à la mi-journée au centre de contrôle de la NASA. Il faut dire que c'est une première dans l'histoire, un événement, un premier vol en hélicoptère sur la planète Mars grâce à Ingenuity, qui ressemble d'ailleurs davantage à un drone qu'à un hélicoptère. C'est en tout cas la première fois, donc, lors d'Autriche, qu'un engin motorisé vole sur une autre planète que la Terre.
Oui, exactement. L'hélicoptère a volé pendant 40 secondes à 3 mètres de hauteur. Une courte vidéo prise par le robot au sol montre l'engin en train de faire du surplace puis de se poser à la surface de Mars. L'hélicoptère a lui-même envoyé une photo en noir et blanc montrant son ombre sur la planète rouge. Les Américains voulaient montrer qu'il est possible de voler à la surface de Mars. Alors c'était un défi parce que l'air martien est 100 fois moins dense que sur Terre et c'est en faisant tourner les pales de l'hélicoptère extrêmement vite que l'engin a pu se soulever. D'un point de vue scientifique, cela pourrait être utile à l'avenir, explique Gabriel Pont, ingénieur au CNES, le Centre National d'Études Spatiales.
Après, on peut imaginer des vols motorisés à la surface de Mars pour faire des mesures de la composition du sol, par exemple, mais à des endroits très éloignés par rapport aux endroits qui nous sont accessibles avec les rovers aujourd'hui.
Dans les prochains jours, d'autres vols de cet hélicoptère auront lieu, en particulier jusqu'à 5 mètres de hauteur, probablement. La NASA veut faire d'autres tentatives en augmentant la difficulté pour voir, d'une certaine façon, jusqu'où il est possible d'aller techniquement.
Eh bien, on suivra ça. Merci beaucoup, Laure d'Autriche.
C'était le journal d'Isabelle Millet qu'on retrouve à 19h pour le rappel de l'info. Un coup d'œil à la météo avec Anissa Dadi. C'est un ciel plus couvert qui nous attend demain partout en France, Anissa.
Oui, et dès le début de la journée, hein, Julien, même si le temps reste sec, le soleil bien présent, il sera souvent ce soleil voilé et masqué par de nombreux nuages. C'est dans le sud-est en fait que le ciel sera le plus dégagé. Attention au nord de la Loire, hein, sur les Hauts-de-France, la Bourgogne, le Grand Est, la Basse-Normandie, le Val-de-Saône, là nous aurons pas mal de brouillards matinaux. Dans l'après-midi, les nuages vont se multiplier avec des averses assez fréquentes, notamment sur la moitié nord du pays. Côté thermomètre, la tendance est à la douceur, vous l'avez senti j'imagine déjà aujourd'hui, et bien demain ça continue. Encore quelques petites gelées, moins 1 à Manosque et au Puy-en-Velay, 2 à Besançon, 4 à Lyon et Lille, 7 degrés déjà demain matin à Paris et 9 à Tarbes. Et puis dans l'après-midi, toujours de la douceur, 12 à Boulogne-sur-Mer, 14 à Cherbourg, 16 degrés à Nice, 18 à Bordeaux, Strasbourg et Paris et 21 la maximale pour Avignon.
Merci Anissa, merci pour ce point météo.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, notre invitée à 18h20, elle est épidémiologiste, directrice de recherche à l'INSERM. Bonsoir Dominique Costagliola.
Bonsoir.
Merci infiniment d'être avec nous dans Europe Soir. C'est vrai qu'on a besoin de vos lumières. On est aujourd'hui, disons-le clairement, dans une situation assez paradoxale. D'un côté, un président de la République qui nous confirme qu'il y aura bien un allègement des restrictions dans 3 semaines. De l'autre, des chiffres de contamination et d'hospitalisation qui baissent sensiblement, mais qui restent à des niveaux très élevés. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ?
J'ai l'impression que ça montre que les décisions ne sont pas basées sur les données et la diffusion de l'épidémie. On est sur un plateau très haut pour la circulation du virus. C'est un peu difficile à interpréter à la fois parce que, comme on fait des moyennes sur 7 jours, on a toujours l'impact du 5 avril, donc du lundi de Pâques, qui perturbe ça. Et ce qu'on voit aussi quand même par ailleurs, c'est une diminution assez importante du nombre de tests, et en particulier chez les moins de 19 ans.
Oui.
Donc, du coup, les données d'incidence sont difficiles à interpréter, mais disons au minimum, on est sur un plateau haut.
Mais ça veut dire, pour être tout à fait clair, que les mesures de freinage, le confinement partiel qui a été décidé, même si, encore une fois, il est beaucoup plus light qu'il a pu l'être il y a un an à la même période, ça fonctionne un peu, mais pas énormément.
Pour l'instant, on n'a pas vu un effet net. Alors, j'attends de voir les évaluations qui vont être faites de l'impact, notamment par Santé publique France, par les gens qui font des modèles. Mais pour l'instant, on n'a pas l'impression quand même qu'il y a un effet très fort de ces mesures.
Et vous dites, d'ailleurs, on n'est pas dans une situation aujourd'hui qui permet d'espérer une embellie. Est-ce que ça veut dire, pour parler clair, Dominique Costagliola, qu'on est en train de refaire les mêmes erreurs que par le passé ?
J'ai l'impression que, en fait, les enjeux de la situation actuelle, qui ne sont pas exactement les mêmes, ne sont pas vraiment bien compris. Les enjeux de la situation actuelle, c'est qu'on est en train, heureusement d'ailleurs, de faire monter l'immunité collective grâce à la vaccination. Oui. Ça, on sait que c'est une période, le temps qu'on atteigne l'immunité collective, c'est une période qui va favoriser l'émergence ou la diffusion de variants d'échappement, c'est-à-dire de variants qui permettent au virus d'infecter des gens qui ont déjà eu la maladie ou qui ont déjà été infectés.
Oui.
Et ça, il faudrait vraiment l'éviter. Et donc, c'est la raison pour laquelle on ne peut pas, pour l'instant, dire c'est le vaccin et puis il n'y a pas besoin de mesures. Si, ouais. Si, c'est justement la période où on a absolument besoin d'avoir une circulation du virus la plus faible possible.
On est en train de se tromper. Il faudrait maintenir les mesures de restrictions et continuer à vacciner, mais pas ouvrir le pays comme semble vouloir le faire le président dans 15 jours. Parce qu'il y a aussi, pardonnez-moi, il y a aussi la reprise de l'école qui reprend lundi prochain, c'est dans 7 jours.
Alors, c'est dans 7 jours dans le primaire,
oui.
Avec toujours pas des mesures de diminution des risques à l'école, pas des choses claires non plus sur la vaccination des personnels, pas de choses sur l'aération, pas de choses sur les demi-groupes, y compris à l'école primaire. Pas de plan sur l'utilisation, par exemple, des tests salivaires de façon régulière, comme on le fait dans plusieurs pays.
Oui.
On l'a vu aussi dans les universités aux États-Unis depuis déjà longtemps.
Oui.
Donc, et aussi un protocole qu'on a à nouveau rendu moins sévère.
Oui.
Et on continue à avoir une définition de cas contact à l'école qui n'est pas celle qu'on utilise pour tout le reste de la population.
Donc on fait n'importe quoi.
Ah ben, ça, pour moi, je ne comprends pas pour l'école, parce que je suis d'accord avec le principe qui consiste à dire qu'il faut au maximum les laisser ouvertes.
Oui.
Mais à ce moment-là, il faut absolument investir pour diminuer le risque. Oui, bien sûr.
Alors, vous évoquiez la menace des variants. Il y a évidemment le variant brésilien dont on parle beaucoup en ce moment. Hier, dans son dernier avis, le Conseil scientifique dit craindre que ce variant devienne majoritaire en France. Ça veut dire que la fermeture des frontières avec les pays concernés, ça ne sert pas à grand-chose dans l'absolu ?
Il est déjà là. Ces variants, ils sont déjà en France, que ce soit le variant sud-africain...
J'ai vu qu'il était là, mais de façon variant, très faible, oui. 0,3
pour l'instant,
des
il n'a pas d'avantage sélectif, ouais. Parce que pour l'instant, il n'y a pas une immunité collective suffisante. Donc, le virus n'a pas besoin de ce variant-là pour continuer à infecter des gens. Il trouve encore plein de gens qui n'ont pas de protection. Maintenant, avec la montée de l'immunité collective grâce à la vaccination... il va en trouver de moins en moins. Mmh. Et c'est à ce moment-là que des variants d'échappement, donc des variants qui lui permettent d'infecter des gens déjà protégés, vont devenir dangereux. Aussi bien le sud-africain, le brésilien, oui. Ou d'autres qui pourraient émerger et qu'on ne connaît pas. Ou par exemple, bien qu'on n'ait pas encore beaucoup de données, le variant indien qui a été déjà décrit au Royaume-Uni et pour lequel Public Health England vient de lancer une enquête pour voir un petit peu, évaluer un petit peu sa dangerosité.
Ça veut dire que l'idée que ce variant brésilien puisse devenir majoritaire d'ici à l'été, comme le dit le Conseil scientifique, c'est plausible?
C'est possible. À partir du moment où il y aura plus d'immunité collective, ces variants d'échappement sont ceux qu'il faut vraiment craindre le plus.
Et comment on fait pour échapper à la montée en puissance de ces variants? J'ai vu qu'aux
on
Pays-Bas...
diminue la circulation du virus.
Donc on en revient aux mesures de restriction. J'ai vu qu'aux Pays-Bas, c'était quand même entre 6 et 7% aujourd'hui des contaminations. C'est énorme, les Pays-Bas, c'est aux portes de chez nous. Ça veut dire que inexorablement, le variant brésilien, il va arriver chez nous.
Mais il est déjà là.
Il est déjà là. Et comment on s'en protège? Est-ce que les vaccins, par exemple, actuels, protègent du variant brésilien?
Alors, sur le variant brésilien, je n'ai pas vu de données très précises. Est-ce que pour l'instant, les études qu'on a vues étaient plutôt sur le variant sud-africain?
Oui.
Mais disons, les deux sont des variants d'échappement, avec le même type de mutation, pas exactement les mêmes. Donc, ça va sans doute procurer une certaine protection, mais pas totale.
Oui, ça veut
mais
dire...
c'est pour ça que ce n'est pas forcément celui-là qu'il faut craindre. Peut-être un qui permettrait vraiment de surpasser la protection.
J'en reviens à ma question initiale, Dominique Costagliola. Ça veut dire qu'un retour à la vie, un début de retour à la vie normale mi-mai, pour vous, ça n'est pas raisonnable?
Moi, je ne vois pas comment ça nous permettrait d'aborder l'été de façon sereine. L'année dernière, ce qui nous a acheté un été, disons quand même... relativement confortable, oui. C'était le fait qu'on a vu un confinement très sévère et une faible circulation du virus.
Donc on repartait de zéro, en somme.
Donc on repartait très bas.
Oui. C'est pas très rassurant, ce que vous nous dites là.
Mais vous voyez, ça m'agace qu'on me dise que je sois alarmiste. C'est les données qui sont comme ça. Oui. Moi, je ne fais qu'essayer de les décrypter, c'est tout.
Oui. Mais c'est bien d'avoir aussi un message de vérité de la part de la scientifique que vous êtes. Sur la vaccination, justement, alors, ça ne vous a pas échappé, ce week-end, il y a eu cet épisode à Nice, un vaccinodrome qui ferme ses portes, faute de volontaires, 58 personnes pour 4000 doses, notamment parce que le vaccin proposé, évidemment, était de l'AstraZeneca. Comment est-ce qu'on fait, maintenant, pour regagner la confiance des patients, maintenant qu'il y a cette défiance et ce doute qui s'est installé?
Ah, ça va sans doute être difficile, mais il faut bien voir que à l'heure actuelle, il est proposé qu'aux gens de plus de 55 ans. Les gens de plus de 55 ans, c'est ceux qui sont particulièrement à risque,
oui.
S'ils attrapent la Covid, de faire une forme grave. Donc pour la balance bénéfice-risque est très en faveur du bénéfice.
Donc, il ne faut pas avoir peur. On peut y aller les yeux fermés.
Voilà. Et après, toute intervention médicale comporte des risques et des bénéfices. Vous voyez ? Mais après, ben, il faut choisir si on les prend ou si on ne les prend pas. Je peux citer un exemple personnel.
Oui.
Voilà, il y a 20 ans, j'ai été diagnostiquée avec une tumeur à l'estomac. Ben, personne, jamais, dans rien de ce que j'ai lu, ne disait qu'on pouvait ne pas faire de chirurgie. La chirurgie, ça comporte un certain risque, mais bien sûr, 20 ans après, c'est sûr qu'il fallait prendre ce risque.
Ouais. Le calendrier de vaccination aujourd'hui, il vous semble trop ambitieux, il vous semble conforme à ce qu'on peut attendre de cette vaccination, et cette montée en puissance de la vaccination, est-ce qu'elle nous permettra, à l'été, y compris si les mesures de restriction finissent par s'étioler, est-ce qu'elle nous permettra d'être massivement protégés pour faire face à ces variants ?
Bah, avec le variant britannique, et maintenant le variant majoritaire en France, il va falloir atteindre un niveau d'immunité collective plus élevé que ce qui aurait été nécessaire avec le précédent. Donc il faut imaginer qu'il faudrait avoir 75 à 80% de personnes protégées. Je rappelle que notre cible actuelle, les adultes, c'est moins de 80% de la population. On sait bien que tout le monde ne se fera pas vacciner. Donc il va falloir envisager la vaccination des enfants. Il y a déjà des données pour les 12 à 16 ans, avec des demandes d'autorisation qui sont en cours. Et je pense que ce sera probablement un des moyens pour réellement arriver à avoir une situation où on pourra alléger complètement les mesures de façon progressive, bien sûr.
Dernier élément, demain, la ministre Elisabeth Borne, ministre du Travail, devrait annoncer un élargissement de la vaccination pour les fameux métiers en seconde ligne, les caissiers, les caissières, les éboueurs, les livreurs, tous ces gens qui sont en contact finalement du public. Ça va dans le bon sens ?
De toute façon, oui. À la fin, il va falloir vacciner tout le monde. Donc, et bien sûr, c'est normal de faire un calendrier qui dépend du nombre de doses que l'on a reçues. Voilà. Et donc, Dieu merci, on va recevoir de nouvelles doses et donc on va pouvoir élargir la vaccination. Et il n'est que temps pour ces personnes qui sont quand même exposées.
Bien. Merci infiniment, Dominique Costagliola, d'avoir été ce soir l'invité d'Europe Soir. Merci à vous.
Europe 1, Julien Bugier.
18h30 à la suite d'Europe Soir avec la première partie maintenant du grand entretien exclusif d'Edouard Philippe, avec toujours Michel Denisot à mes côtés en studio, qui a eu la chance de passer une heure avec lui ce matin dans son bureau du Havre. Michel, c'est vraiment une autre facette de l'ancien Premier ministre qu'on va découvrir maintenant.
Disons qu'on a, j'ai appliqué la recette de Icône, le rendez-vous qu'on a ici le samedi matin à 8h45, en la développant en grand format. Bon, il y a ces icônes, on va en parler dès le début de cet entretien, on en parle au début, on en parle à d'autres moments, icônes politiques, icônes sportives, icônes artistiques, et icônes parmi les écrivains aussi, puis aussi bah, évidemment sur où va-t-il et qu'a-t-il fait et que regrette-t-il et qu'a-t-il fait de bien et quelles sont ses relations avec Emmanuel Macron.
Mais justement, on va voir si Emmanuel Macron fait partie de ses icônes aussi. Ce sera en filigrane dans l'interview. Vous nous direz juste après ce que vous en avez pensé.
D'accord.
Première partie de ce grand entretien, à tout à l'heure.
Édouard Philippe, bonjour. Merci de nous recevoir à la mairie du Havre. Votre livre est en tête des ventes. Votre livre écrit avec Gilles Boyer, Impression et Ligne Claire chez Jean-Claude Lattès. Vous êtes en tête des sondages aujourd'hui aussi. Votre livre est à la fois une sorte de livre impressionniste avec une succession de tableaux impressionnistes comme Claude Monet qui a peint les bateaux qui sortent du port du Havre, pas loin d'ici. Les icônes sont faciles à trouver dans ce livre, elles ne sont peut-être pas toutes, mais en tout cas on peut commencer peut-être par Georges Pompidou qui est une icône qui a créé le rôle de Premier ministre de la Ve République.
Ça a été le deuxième Premier ministre de la Ve République, mais c'est celui qui est probablement un des plus marquants, d'abord parce que c'est lui qui est resté le plus longtemps. Il a fait 6 ans, c'est le seul à avoir enjambé 2 mandats, de 62 à 68. C'est quelqu'un pour qui j'ai une énorme admiration, mais cette admiration est née assez tardivement. Ce n'est pas du tout une icône de jeunesse, entre guillemets. Ce que j'aime chez Pompidou, c'est d'abord le littéraire. Qui m'impressionne beaucoup parce que c'est une de mes passions, la littérature. Alors moi, je ne me compare pas du tout à Pompidou en la matière, mais Pompidou a une culture absolument considérable, un sens de la langue qui est très particulier. Il écrit remarquablement. Il a écrit, après Matignon, après 1968, un petit livre qui s'appelle Le Nœud Gordien, qui n'est pas très long, qui est d'une limpidité magnifique. C'est lumineux. C'est très, très bien écrit. Et donc, il y a cet amour de la langue qui est quelque chose auquel je suis très sensible, même si évidemment, encore une fois, je ne prétends pas du tout parler ou écrire aussi bien que Pompidou. Et puis, derrière cet amour de la langue, qui est une des incarnations pour lui de l'amour de la France, ça, j'en suis sûr, il y a une capacité d'organisation et de transformation du pays, une capacité à gouverner qui est extrêmement impressionnante. Et le bilan de cette France pompidolienne, son passage à Matignon puis ensuite à l'Élysée, est quand même le bilan d'une France qui se transforme, qui se modernise, qui reste profondément attachée à ce qu'elle est et qui, en même temps, se conjugue au présent et essaie de préparer l'avenir. Il y a quand même quelque chose d'extrêmement impressionnant dans le personnage et dans son action.
Françaises et françaises, j'ai fait la preuve de ma volonté d'apaisement. Le gouvernement doit défendre la République, il la défendra.
Quand on parle des autres, on parle parfois aussi de soi-même. Donc Georges Pompidou, il n'y a que deux premiers ministres de la Ve République qui sont devenus chefs d'État, qui sont devenus président de la République.
Oui, il y en a plein qui ont essayé, qui n'ont pas réussi. Oui. C'est pas mon sujet. Quand je parle de Pompidou, j'essaie de voir la force intellectuelle, la capacité d'organisation et cette aspiration à la modernité et en même temps à l'identité. Je trouve que j'ai toujours été un peu frappé par le caractère souvent artificiel des oppositions et des postures en politique. Et je trouve qu'avec Pompidou, il y a une forme de complexité. Vous voyez, quelqu'un qui aime autant l'art contemporain que la poésie classique. C'est très, très beau. C'est très, très beau.
Est-ce que vous pensez qu'il est, comme vous citez Tocqueville, l'expression, est-ce qu'il est violemment modéré? Est-ce que c'est aussi votre cas?
J'ai dû dire ça plusieurs fois, oui. Et je trouve que le problème de la modération, c'est que souvent, elle est perçue comme une forme de renoncement ou une forme de timidité ou une forme... Moi, je ne crois pas du tout. Je pense que la modération et la nuance, ça traduit aussi une très grande résolution. Mais essayer d'éviter la posture permanente ou l'excès me paraît un exercice de discipline intéressant. Parce que on peut aller facilement vers l'excès. On peut aller facilement vers la posture, vers la colère, vers l'indignation ou vers la résignation. Moi, je préfère une forme de balancement circonspect, si j'ose dire, c'est-à-dire, au lieu du déclinisme, la lucidité, mais la confiance. Au lieu de l'excès, la nuance. Je ne crois pas que ça se traduise par une forme de renoncement à quoi que ce soit.
Aujourd'hui, on vous voit, on vous entend beaucoup. Donc, pour la sortie de votre livre, on demande toujours si vous serez candidat à l'élection présidentielle. Donc, ne vous le demanderai pas.
Non, ne me le demandez pas, parce que je crois que ça n'est pas une bonne question. Et comme vous ne me le demandez pas, je peux dire que ça n'est pas une bonne question.
Ouais. Ça veut dire que la question se pose pas. Ça veut dire que la question se pose.
Non, ça veut dire que on est notre système politique devient presque un peu fou. Tout le monde ne parle que de la candidature à l'élection présidentielle, tout le monde ne parle que de la présidentielle, et personne ne parle de la France ou de la stratégie de la France. Alors c'est très beau les destins personnels, c'est formidable. Il y a plein de gens qui pensent qu'ils sont nés pour être appelés par la France.
Vous dites que le destin se joue sur un détail. Hein.
Le destin se joue parfois sur les détails, les circonstances révèlent les hommes, tout ça est vrai. Mais est-ce qu'on peut... au lieu de s'interroger sur les destins des femmes et des hommes qui pensent qu'ils en ont un, s'interroger sur la stratégie de la France. Vous voyez, je suis maire du Havre et j'aime ça. Je n'arriverai pas à exercer dans de bonnes conditions mon mandat de maire du Havre si je n'avais pas une idée très précise de ce que le Havre doit... ce à quoi le Havre doit ressembler en 2030 et en 2040 et en 2050. Alors, 2050, ça peut sembler très loin. Peut-être que je ne le verrai pas. J'espère que je le verrai. Mais mes enfants le verront. Mes petits-enfants le verront, je l'espère. Et tous les maires de grandes villes font ça. Vous allez dans n'importe quelle grande ville, que le maire soit de droite, de gauche, ça n'a aucune importance. Vous lui demandez à quoi doit ressembler sa ville dans 20 ans, il en a une idée. Et une idée assez claire. Parce que sinon ça ne marche pas. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que en tant que nation, notre pays s'interroge sur à quoi il veut ressembler en 2030, en 2040 et en 2050. Et qu'ensuite, on se pose la question de telle ou telle réforme pour arriver à cet endroit-là, c'est très bien. Plutôt qu'on s'interroge sur les deux ou trois mesures que voudraient faire les deux ou trois personnes qui pensent qu'ils ont une vocation naturelle à devenir président. Ça, je dois dire que ça m'intéresserait plus.
Mais à un an de l'élection présidentielle, c'est légitime d'en parler aussi de temps en temps.
Oui, oui, bah écoutez, voilà, il y a beaucoup de gens qui en parlent, il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés. Moi, je pense que le moment, à un an de l'élection présidentielle, le moment doit être consacré au fond. Et dans le livre qu'on a écrit avec Gilles Boyer, on essaie de faire du fond. On raconte, bien sûr, ce que c'est qu'être à Matignon, comment est-ce qu'on prend des décisions. Mais on essaie surtout de présenter quelques sujets sur lesquels peut-être le destin de la France peut se jouer. Je n'ai pas vocation à l'exhaustivité. Et c'est ce fond-là qui me paraît important de discuter.
Donc la question, à quoi pensez-vous le matin en ne vous rasant pas?
D'abord, une barbe, ça s'entretient. Donc,
ouais, mais on ne se rase pas.
On ne se rase pas complètement. Ouais, quand même, on l'entretient. Donc, c'est du
donc
travail.
On ne se pose pas la même question qu'en se rasant?
Je ne sais pas. En tout cas, ce que j'essaie de faire à ma place, avec beaucoup de résolution, c'est d'essayer de contribuer à un débat national et à une structuration du débat public qui permet non pas de s'interroger sur qui va être le meilleur candidat le moment venu, mais plutôt de se demander qu'est-ce qu'il faut faire, et peut-être avec qui, si on veut affronter les temps qui viennent. Et les temps qui viennent... le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ne sont pas faciles et que je préfère qu'on les regarde avec lucidité. Donc, on va avoir affronté dans les années qui viennent.
La question que vous posez, vous avez la réponse, ce qu'il faut faire et avec qui?
Non. Non, j'ai pas toutes les réponses. Il y a énormément de sujets qui se posent. J'ai commencé une réflexion, je propose quelques pistes sur les questions de défense, sur les questions de maîtrise de la dépense publique, sur les questions de l'écologie, bien sûr. Je propose quelques éléments, j'essaie de les faire valoir, de les présenter, mais d'une certaine façon, j'écoute aussi ce qui est dit en retour. Non, j'ai pas toutes les réponses. D'ailleurs, je vais vous dire, tous ceux qui arrivent en m'expliquant qu'ils ont toutes les réponses m'angoissent, moi.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que quand vous avez la volonté de participer au débat public, il faut le faire avec une très grande résolution, une très grande force d'âme sans doute. Mais enfin, vous avez aussi le droit d'avoir un petit peu d'humilité et de savoir que sur tous les sujets, vous n'avez pas en permanence toutes les bonnes réponses. Ça me semble un préalable pas inutile.
C'est assez rare chez les énarques.
C'est assez rare chez les femmes et les hommes, je vous dis. Je ne crois pas que ce soit propre à telle ou telle catégorie.
Winston Churchill.
Churchill. Alors, le problème de Churchill, c'est que c'est devenu une référence trop commune pour être original. Oui, alors c'est d'ailleurs un des problèmes de Churchill. Ouais. C'est qu'il finit par être connu pour ses bons mots. Alors, ses bons mots sont légion.
J'en citais quelques-uns.
Ils sont extraordinaires. Mais enfin, Churchill, ce n'est pas que des bons mots. Ce n'est pas qu'un esprit vif. C'est aussi, lui aussi, pour le coup, un très grand amoureux de la langue anglaise, qui maîtrise parfaitement la langue et l'histoire anglaise. C'est un redoutable débatteur politique. C'est un visionnaire à bien des égards. Et puis, c'est l'homme d'une lutte acharnée pour le maintien de la nation britannique. Et pour l'idée qu'il se fait de ce que doit être l'Empire ou le Royaume-Uni. C'est quelqu'un avec des zones d'ombre. C'était un dépressif, on le sait, complet, avec des phases très sombres. Il appelait ça son black dog, son chien noir, avec des phases très, très sombres. C'est quelqu'un qui a été adulé et honni, détesté. Dans les années 30, il est détesté par toute la classe politique britannique, en vérité. C'est quelqu'un qui a changé de parti, d'ailleurs.
Mais vous aussi?
Il a cette formule. Oui, d'accord. Mais enfin,
vous avez été rocardien quand vous étiez... Ensuite, Churchill vous étiez à l'UMP aujourd'hui. Vous êtes sans parti aujourd'hui.
Churchill a cette formule.
Cette phrase. Oui, je vous laisse la citer.
Il a une formule qui est savoureuse. Parce que si elle n'avait pas été écrite par lui, j'aurais aimé pouvoir l'écrire. Il dit... Parce qu'il a changé de parti deux fois. Il est parti du Parti conservateur, puis il y est revenu. Il dit, je préfère ceux qui... changent de parti pour rester fidèles à leurs idées que ceux qui changent d'idées pour rester fidèles à leur parti. Tout est dit. C'est pas la peine d'en rajouter. Ça, c'est sûr que la formule dit tout. Voilà.
On se retrouve dans un instant avec Édouard Philippe, juste après la pub.
Europe Soir. Michel Denisot, Édouard Philippe, une rencontre.
Édouard Philippe, donc, nous sommes avec vous à la mairie du Havre. Vous racontez dans votre livre la façon dont vous avez quitté le gouvernement après 3 ans, 1 mois et 18 jours, si j'ai bien compté. Est-ce qu'on peut considérer que l'amour dure 3 ans et que le 1 mois et 18 jours a peut-être été un peu trop quand on lit tous les détails de ce qui s'est passé à ce moment-là et que c'était plus compliqué avec la situation sanitaire entre vous et le président de la République où vous n'aviez pas forcément le même point de vue. Et vous aviez une cote de popularité très élevée.
Oui. D'abord, le fondement de la relation entre un Premier ministre et un président, ce n'est pas une question d'amour. C'est une question de confiance, parce que ça, c'est très important. C'est une question de convergence des vues. Mais ce n'est pas une relation d'amitié ou une relation d'amour. C'est une relation de confiance et de travail. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que je l'envisageais et que je l'ai toujours pratiqué. Ça a toujours été une relation de grande confiance, me semble-t-il, et de bon travail. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a fait, on l'a bien fait. J'en suis parfaitement conscient. Enfin, on a fait beaucoup de choses aussi, et j'en suis aussi assez fier. Ensuite, il y a une prérogative qui est une prérogative absolue du président de la République, qui est le signe de sa prééminence au sein des institutions. Il choisit son Premier ministre. Quand il a envie d'en changer, il en change. Il se trouve qu'il a utilisé cette prérogative, et j'ai suffisamment de respect à la fois pour le président de la République et pour les institutions pour ne pas m'en offusquer. Voilà, c'était sa prérogative. Il a considéré que c'était le bon moment. Moi, je lui avais dit très tôt, avant les élections municipales du Havre, plusieurs semaines auparavant, que quoi qu'il arrive après les élections municipales, le deuxième tour se tenait le 28 juin, je crois, je lui remettrai ma démission. Pour qu'il ait justement la possibilité de changer de ligne ou de ne pas changer de ligne, de changer d'homme ou de femme, enfin bref, pour qu'il ait la plénitude du choix dont il... la plénitude du choix lui revenait à ce moment-là. Et il a utilisé cette capacité de choix, il a tranché. C'est le boulot du président de la République.
Est-ce que vous auriez préféré rester ?
J'ai indiqué à la fois au président et à la fois publiquement que, par définition, si le président de la République vous demande de rester sur quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise, vous restez. Donc cet état d'esprit, cette disponibilité, elle était, je crois, parfaitement entendue et parfaitement comprise par le président de la République. Mais il a fait un autre choix. Voilà.
Est-ce que tout ce qui a été raconté dans le journal du dimanche d'hier, je ne sais pas si vous avez lu le long papier d'Hervé Gattegno, est vrai ?
J'ai trouvé que c'était je l'ai lu, hein, j'ai trouvé que c'était un très long article. Et peut-être vous allez me trouver curieux, mais je n'ai pas complètement saisi l'intérêt de passer autant de temps à se poser ces questions-là. Après, ce n'est pas moi le meilleur juge en la matière. Encore une fois, la propension, la fascination que nous avons à nous raconter en permanence l'histoire de l'histoire, le petit sujet tactique, et à ne pas nous poser les questions de fond, est quelque chose qui à la fois me fascine et m'inquiète. Voilà. Bon, après, j'ai pas noté de choses totalement fausses. Non, j'ai pas noté de choses fausses. Il y a un certain nombre de choses qui mériteraient peut-être d'autres types d'éclairage, mais ça, vous savez, quand je lis des journaux, je me surprends toujours quand je lis des journaux, parce que parfois vous avez des journaux qui vous expliquent ce que vous pensez. Alors vous êtes content parce que manifestement vous aviez pas bien compris ce que vous pensez, mais eux ils savent. Bon, c'est formidable. Mais ça c'est la vie. Hein,
vous parlez des chaînes d'infos en continu dans votre livre, avec un jugement assez sévère, en tout cas qui peut être juste aussi, à savoir que c'est des chaînes qui sont plus dans l'exceptionnel que dans le sérieux.
Alors elles peuvent être dans le sérieux, c'est ça qui est terrible. Parce qu'il y a des très grands professionnels sur ces chaînes d'infos en continu. J'ai aucun doute là-dessus, j'en connais, je les respecte beaucoup. Et il y a aussi, à l'intérieur de ces chaînes d'infos en continu, des moments qui sont des moments d'information, des moments de télévision, en l'occurrence, qui sont des grands moments. Mais il y a une fascination pour l'audience permanente, pour le remplissage du vide, si j'ose dire, qui est telle que, à la fin de la fin, entre les chaînes d'infos en continu, les réseaux sociaux, et peut-être aussi, sans doute aussi, les responsables politiques, vous avez une forme d'affaissement du débat public. Moi, ce qui m'effraie, et comme je suis un des acteurs du débat public, je m'inclus dans cet ensemble, nous avons, je trouve, dans notre pays, une forme d'affaissement du débat public. Les polémiques succèdent aux polémiques, les indignations succèdent aux indignations, les commentaires sur la petite phrase ou l'erreur de langage, parfois l'erreur de comportement, prennent une importance absolument considérable et on oublie la pensée, on oublie les hésitations, les nuances, les paradoxes même, les paradoxes des individus, les paradoxes des situations. Et je trouve qu'à la fin, nous n'avons pas, dans un vieux pays démocratique, dans une belle république comme la France, le débat public que nous méritons. Et il y a une part de responsabilité des responsables politiques, à l'évidence, j'en prends ma part. Il y a une part de responsabilité de la presse, à l'évidence. Et il y a probablement des nouveaux moyens d'inventer peut-être une forme de discipline collective à s'imposer pour que on parle plus, je vous dis, du débat sur la politique de défense, de la question de savoir comment est-ce qu'on fixe une stratégie pour la production d'énergie en France à l'horizon 2030, 2040, 2050, qu'est-ce que ça veut dire en termes industriels, plutôt que telle ou telle petite phrase ou telle erreur de langage, parfois, qui traduit sans doute peut-être une erreur de la pensée, mais pas toujours. Voilà, je trouve que moi, je suis très attaché à la démocratie. Et la démocratie, ça passe par le débat public entre citoyens qui s'intéressent à la chose publique. Mais on ne peut pas faire une démocratie sans ça. Une démocratie sans citoyens, ça ne marche pas. Une démocratie sans débat public, ça ne marche pas.
Comment vous informez-vous ?
Eh bien, je m'informe en lisant des livres. Alors en lisant un peu la presse, j'ai été un très très grand consommateur de presse écrite pendant des années et des années, et je reconnais que je la lis moins, ce qui d'ailleurs, je ne suis pas le seul dans ce cas, mais je la lis moins parce que je la trouve souvent incomplète. Regardez par exemple, la place qu'occupe l'actualité internationale dans les journaux français, elle est dérisoire. Elle est dérisoire, je suis désolé, mais c'est dérisoire.
Et les chaînes d'infos encore moins.
Et dans les chaînes d'infos encore moins. Nous vivons dans un monde dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est totalement interconnecté, avec des menaces absolument considérables. Et pourtant, c'est comme si on vivait dans une forme de bulle, même pas européenne, nationale. Parce que qu'est-ce qu'on sait dans le détail de ce qui se passe dans les autres pays d'Europe ? Je trouve que, parfois les journalistes me disent « mais ça n'intéresse pas les Français ». D'abord, je ne sais pas si ça intéresse pas les Français. Et j'ai tendance à penser qu'au contraire, ça les intéresse beaucoup, que parfois ça les angoisse, et que comme on n'en parle pas, cette angoisse se trouve encore renforcée. Donc voilà quelque chose sur lequel, je trouve, notre débat public devrait progresser.
Donc vous me dites que vous informez en lisant des livres, mais bon, c'est le passé.
Et
ça peut éclairer le présent. En lisant quelques journaux, et à la télévision, vous regardez quoi ? Et à la radio, vous écoutez quoi ?
J'écoute les matinales à la radio. Je regarde assez peu la télévision. Et puis je lis beaucoup. Voilà, je lis beaucoup. Mais vous savez que vous dites les livres, c'est le passé. Vous informez beaucoup en lisant des livres, y compris sur le présent, y compris sur ce qui se passe.
Vous en lisez trois, pas en même temps, mais simultanément.
Je lis souvent des livres en même temps.
Et vous lisez quoi
Pas toujours. Je lis en même temps.
Une belle expression en même temps.
Je trouve que ça montre que la vie est parfois faite justement de contradictions qui sont apparentes, mais qui n'en sont pas. Donc je lis en ce moment une histoire, une courte histoire de la Russie, je me suis rendu compte qu'à part la période révolutionnaire de la Russie, eh ben au fond, voilà une histoire, un peuple, une civilisation, une géographie que je ne connaissais pas si bien. Donc je suis en train de lire une histoire de la Russie, je suis en train de lire une petite histoire de Rome. Alors ça, c'est un de mes passions. J'aime beaucoup l'histoire de la Rome antique, de la République puis de l'Empire. Donc je lis beaucoup là-dessus. Et voilà, ça, c'est les deux livres que je suis en train de lire. Et puis je suis en train de terminer le très gros premier tome des mémoires de Barack Obama.
Bien, nous allons nous retrouver avec Édouard Philippe après le journal de 19h que va présenter Isabelle Millet dans quelques instants. Et vous nous direz comment on gouverne.
Europe Soir.
Il est 19h, belle soirée sur Europe 1. Et à la une ce soir, Isabelle, ces salariés qui risquent de manquer à l'appel le jour où les bars et les restaurants pourront rouvrir.
Ben oui, ça fait tellement longtemps qu'ils sont sans emploi que beaucoup ont dû trouver un plan B et risquent de ne pas répondre présent quand on aura de nouveau besoin d'eux. Les organisations professionnelles du secteur s'en inquiètent d'ailleurs, Olivier Samin, d'autant qu'on parle d'un peu plus de 100 000 personnes, c'est considérable.
Oui, c'est l'estimation qui ressort d'une étude qui a été réalisée à la demande des syndicats patronaux de l'hôtellerie et de la restauration. 100 000 commis de cuisine, serveurs, barmen, demi-chefs de rang, chefs de rang, maîtres d'hôtel, qui pourraient ne pas répondre présent quand l'activité redémarrera. Didier Chenet préside le groupement national des indépendants de l'hôtellerie et de la restauration.
C'est toute la difficulté que nous allons avoir lorsque nous allons rouvrir, c'est qu'ils vivent une vie différente.
Ben oui. En chômage partiel depuis un an, ils ont découvert qu'on peut avoir ses soirées avec son conjoint et ses enfants, qu'on peut aussi avoir ses week-ends. Bref, qu'il y a une autre vie possible en travaillant dans des secteurs d'activité qui offrent des horaires normaux et qui proposent des salaires comparables. L'étude que nous avons pu consulter montre que cette crainte est particulièrement forte dans un établissement sur deux. Crainte qui porte à la fois sur les conditions du retour, à temps plein ou à temps partiel, et sur les pertes de compétences qui en découleraient. D'où la nécessité de renforcer l'attractivité des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. L'étude cite plusieurs leviers, le versement de primes et de bons d'achat, l'amélioration de la qualité de vie au travail, un management moins vertical et une politique de formation plus volontariste.
Olivier Samin du service Écho d'Europe 1. Alors chez nous, on n'en est pas encore malheureusement à la réouverture, mais plusieurs de nos voisins commencent à desserrer l'étau. La Suisse, par exemple, qui a rouvert ses cafés et ses restos aujourd'hui. La Grèce, elle, annonce que les voyageurs arrivant de l'Union européenne n'auront plus à effectuer une quarantaine de 7 jours à leur arrivée s'ils disposent d'un test de dépistage négatif de moins de 72 heures ou bien s'ils sont vaccinés. Emmanuel Macron ne veut pas parler que du Covid, justement.
Oui, le président était à Montpellier cet après-midi pour défendre son bilan sécuritaire et fixer des objectifs. Le chef de l'État s'est notamment rendu sur un point de deal démantelé dans le quartier de la Mosson.
À un an de la présidentielle, il est venu promettre plus de sécurité au quotidien. Il a notamment embarqué avec une équipe de la BAC avant de se rendre dans le quartier sensible de la Mosson. À Marseille, le réquisitoire au procès de la BAC Nord, justement, jusqu'à 6 mois de prison ferme requis à l'encontre des 18 ex-policiers poursuivis pour avoir volé de la drogue ou de l'argent des saisies.
Un nouveau rapport également au sommaire ce soir accablant sur la responsabilité de la France dans le génocide rwandais.
Rapport rédigé par des avocats américains, 3 semaines après celui de la commission Duclert à Paris, Nicolas Feldman.
Oui, et la conclusion est sans appel. L'État français porte une lourde responsabilité pour avoir rendu possible un génocide prévisible. C'est ce qu'écrivent les auteurs du rapport. Autrement dit, la France savait qu'un génocide était en préparation et aurait donc pu l'éviter. Pendant 4 ans, les experts américains ont entendu près de 250 témoins, collecté des articles de presse, des échanges diplomatiques. Et leur constat va dans le même sens que le rapport de la commission Duclert. Salut Alain Gauthier, il est président du collectif des parties civiles pour le Rwanda en France.
J'ai été quand même frappé par le ton relativement modéré du rapport. Alors que le rapport Duclert parlait d'une responsabilité écrasante du gouvernement français, le Rwanda lui parle d'une politique qui a rendu possible un génocide prévisible. Bon, je crois que on va à peu près dans le même sens, même si l'expression du rapport rwandais est peut-être un peu plus forte.
L'Élysée, de son côté, salue un espace politique nouveau pour se projeter vers un avenir commun. Tout cela pourrait se matérialiser le mois prochain avec la venue à Paris du président Kagame, avant une visite d'Emmanuel Macron à Kigali dans les prochaines semaines.
Nicolas Feldman.
Ce coup de tonnerre également sur la planète foot, après le putsch opéré par 12 des plus grands clubs européens qui ont décidé de créer une compétition fermée pour supplanter, disent-ils, la Ligue des Champions.
C'est un crachat au visage de tous les amoureux du foot, dit le patron de l'UEFA, qui promet d'exclure les clubs et les joueurs concernés de toute compétition nationale et internationale. Aucun club français et aucun club allemand, on précise, ne participent à ce putsch. Ingenuity, le petit hélicoptère de la NASA, a réussi aujourd'hui son premier vol sur Mars. C'est un événement, c'est une première, c'est historique. On n'avait encore jamais volé au-dessus d'une autre planète que la Terre.
L'actualité spatiale cette semaine, c'est aussi bien sûr le décollage jeudi de Thomas Pesquet pour son deuxième séjour dans l'espace, sa deuxième mission à bord de la Station Spatiale Internationale.
Elle va durer 6 mois cette mission, décollage à bord d'une fusée SpaceX d'Elon Musk. Alors on pourrait croire qu'il est beaucoup plus à l'aise que la dernière fois en 2016, Thomas Pesquet. Eh bien non, il appréhende même un peu plus cette mission.
Je pense que le deuxième séjour, il est plus difficile que le premier. Physiquement, peut-être pas, parce que j'ai l'impression d'être dans la meilleure forme de ma vie en ce moment, même si je suis un peu plus vieux, évidemment quelques années en plus que la dernière fois. Mais par contre, mentalement, oui, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que on sait à quoi on s'expose. En fait, la première fois, on part à l'aventure, On sait que ça va être difficile parce qu'on vous l'a dit, parce qu'on l'imagine, parce qu'on est capable de le comprendre, mais on ne sait pas exactement à quel point, on ne sait pas exactement quand ça va être difficile. La deuxième fois, on sait exactement à quoi on s'expose. Hein. Et puis, la situation sur Terre, enfin, la pandémie de Covid n'a pas rendu l'entraînement facile, a fait que on s'est retrouvé très isolé nous-mêmes pendant l'entraînement. Hein. Donc, on se prépare à quitter nos proches, à quitter la Terre pour 6 mois. Et malheureusement, ça fait déjà presque un an qu'on est quasiment en isolation. Donc ça, c'est pas génial non plus. Mais bon, évidemment, quand on va dans l'espace, on peut pas se plaindre.
Thomas Pesquet, des propos recueillis par l'Or d'Autriche. Des nouvelles du ciel, justement. Anissa Haddadi nous annonce un temps plus nuageux demain avec de nombreux brouillards au nord de la Loire. Le matin, l'après-midi sur la moitié nord, les averses seront fréquentes. Au sud, le vent va se lever au bord de la Méditerranée. Les températures toujours plus douces dans l'après-midi, de 11 à Dunkerque jusqu'à 21 à Avignon. Il fera 18 dans la capitale.
Bien, et elle sera avec nous demain, évidemment, Anissa Haddadi. Elle a bien essayé de se glisser dans la capsule de Thomas Pesquet, mais elle a pas réussi. La NASA a refusé, malheureusement. Bon, merci Anissa, merci Isabelle. On vous retrouve demain évidemment à partir de 18h.
Europe 1, Julien Bugier.
19h10, la suite d'Europe Soir avec la suite de l'entretien exceptionnel accordé par Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, à Michel Denisot.
Nous nous retrouvons avec Édouard Philippe donc à la mairie du Havre pour cette dernière demi-heure d'entretien exceptionnel. Comment gouverne-t-on ? Comment prend-on une décision ?
Ça dépend de la décision. Et comprendre que la façon dont on prend une décision dépend de la décision qu'on prend est déjà une bonne marche de passé. Quand vous êtes à Matignon, vous avez 1000 choses à faire, dont prendre un certain nombre de décisions. Elles sont toutes un peu compliquées à prendre. Pourquoi je dis ça ? Je dis ça parce que si elles avaient été faciles à prendre, elles auraient déjà été prises ailleurs. Au fond, ne remonte à Matignon que les décisions qui sont des désaccords entre plusieurs personnes, entre plusieurs ministres. Si les ministres ont réussi à se mettre d'accord, par définition, ils vous informent de la décision, vous la voyez, mais ce n'est pas à vous de la prendre. En général, quand vous avez à prendre une décision, c'est que ça frotte entre le ministre du Budget et le ministre du Travail, entre le ministre du Travail et le ministre de la Fonction publique, enfin bref, c'est que ça frotte. Comment est-ce qu'on prend des décisions ? Soit ce sont très techniques et vous en prenez 10, 12, 15 par jour. Et donc, vous savez que quand vous prenez 10, 12, 15 décisions par jour, vous savez que vous allez vous planter. Mmh. Alors, pas sur toutes, il faut espérer. Pas sur les plus importantes, il faut espérer. Mais il faut avoir cette idée-là, qui peut être très inquiétante pour ceux qui nous écoutent. Mais tout le monde, tous les gens qui sont amenés à prendre beaucoup de décisions, que ce soit dans leur vie professionnelle ou dans leur vie personnelle, savent que ça n'existe pas de prendre toujours les bonnes décisions. Donc il faut accepter l'idée que parfois, on prend des décisions qui sont moins bonnes que d'autres. Et puis parfois, quand vous êtes à Matignon, vous n'avez pas de bonnes décisions. C'est ce que nous avons vécu pendant la crise sanitaire. Il n'y a pas une décision, il n'y a pas un choix entre une décision qui serait bonne et une décision qui serait mauvaise, parce que sinon, ce serait facile. Vous avez le choix entre deux mauvaises décisions. Ouais. Il faut éviter de prendre la pire.
Parfois, il faut prendre des décisions, je cite Churchill, qui vous est cher, quand vous avez un tiers des infos qui sont incomplètes, un tiers des infos qui sont contradictoires et un tiers des infos qui sont fausses. C'est ce que vous avez dû connaître, en particulier avec le Covid. Au début, vous avez dit qu'il ne faut pas porter de masque.
Lui raconte ça sur la période de guerre,
ouais,
où il a pris des très mauvaises décisions. J'ai un respect infini pour Churchill et une admiration infinie également. Mais tout le monde sait que pendant la guerre, il a parfois pris des décisions ou il a entériné des décisions qui se sont révélées parfois désastreuses et parfois extraordinaires. Mais malheureusement, en situation de crise, c'est presque mécanique, compte tenu à la fois du nombre de décisions que vous prenez et compte tenu du fait qu'elles sont souvent fondées sur des informations qui sont incomplètes, erronées, contradictoires. Bon. Et c'est ce que nous avons vécu, en tout cas c'est ce que moi j'ai vécu pendant la crise sanitaire, avec des remontées d'informations qui étaient parfois contradictoires. Vous aviez des médecins très prestigieux, très sérieux, très dévoués au bien public et à la santé publique, qui disaient que le port du masque en population générale dans des situations de ce type n'avait aucun sens. Et puis d'autres qui vous disaient l'inverse. Et vous devez vous faire un avis en fonction d'informations qui sont contradictoires, qui ne sont pas toujours sous-tendues par des éléments très précis. Et donc, au fond, ça vous renvoie à une assez grande forme d'humilité. Mais ça ne peut pas vous renvoyer à une forme d'inaction.
Ouais.
Parce que parfois, vous avez le choix entre deux décisions mauvaises, mais vous savez que si vous n'en prenez pas, c'est pire. Et donc, il faut avancer.
Quelle est la meilleure décision que vous ayez prise et qui est la moins bonne dans cette période ?
Dans la période de crise sanitaire, oui. C'est une très bonne question, je dois dire, et je ne suis pas sûr de savoir y répondre comme ça, de chic. Il faudrait que j'y réfléchisse un peu plus. C'est vrai qu'au regard de ce qu'on sait aujourd'hui et de ce qu'on pratique aujourd'hui, je me suis souvent dit que j'aurais probablement dû formuler un peu plus de prudence ou de nuance dans un certain nombre d'avis que je répétais, mais qui étaient formulés sans nuance par ceux qui les formulaient. Quand on a repris la doctrine de l'Organisation mondiale de la santé sur le port du masque, parce que c'était l'Organisation mondiale de la santé, c'est parce que c'est elle qui a l'expertise sur la gestion des pandémies, l'OMS nous a dit jusqu'au mois de juin 2020 que le port du masque en population générale n'avait pas de sens.
La Direction générale de la santé définit, avec les sociétés savantes, les règles d'utilisation précises des masques chirurgicaux. Je le redis, doivent être équipés les professionnels de santé, les personnes contaminées. L'usage des masques en dehors de ces indications est inutile.
Je l'ai répété avec beaucoup d'assurance. C'est vrai que maintenant, je me dis, si j'avais mis un petit peu de nuance là-dedans, j'aurais l'air moins bon. Mais en même temps, quand vous formulez un message de santé publique avec des nuances, on peut vous faire le reproche, et je le comprendrai, de ne pas être suffisamment ferme, de ne pas être suffisamment précis. Voilà, donc ça, c'est probablement quelque chose qu'a posteriori, je regrette sans doute. Et ensuite, il y a quelques décisions d'organisation, notamment sur la mobilisation de l'ensemble des forces de l'État, des ARS et des diplomates, pour ne pas nous retrouver en situation de pénurie sur les médicaments liés à l'endormissement des patients. Et on n'a pas eu de pénurie, alors même que ça a été chaud, si vous me passez cette expression, dont je suis, je ne sais pas si je suis fier, mais je pense que les bonnes décisions ont été prises à ce moment-là.
Est-ce que vous pensez qu'on va s'en sortir?
Oui.
Quand et comment? C'est difficile.
Je ne sais pas. Ouais. Mais oui, on essaie de dire ça avec Gilles Boyer dans le livre, que c'est une crise sanitaire d'une violence et d'une ampleur absolument considérable, dont les effets déstabilisants ne sont pas encore aujourd'hui susceptibles d'être complètement mesurés. Tout ça est très vrai, mais jamais dans l'histoire de l'humanité, jamais dans l'histoire de l'humanité, on a vu une telle coordination internationale. Est-ce qu'elle est suffisante? Non, mais on n'en a jamais vu une aussi puissante. Une telle coordination de la recherche, en moins d'un an, on a trouvé plusieurs vaccins et ils sont en train d'être déployés à un rythme qui n'a jamais été vu dans l'histoire de l'humanité. Donc bien entendu, il faut être conscient de la déstabilisation complète et de la nuisance terrible engendrée par ce virus. Et en même temps, il ne faut pas perdre de vue que la réponse de l'humanité à cette crise sanitaire est la plus rapide et la plus puissante jamais trouvée à l'échelle de l'humanité. Moi, ça me donne confiance. Alors, là encore, hein, on peut assortir cette confiance d'une forme de lucidité. Hein. Il faut d'ailleurs. Mais ça me donne confiance. Je suis sûr qu'on va s'en sortir. Oui.
Vous évoquez deux crises majeures, évidemment, dans votre livre, la crise financière et la crise climatique. La dette, comment va-t-on s'en sortir? Moi, je ne comprends pas comment tous les jours, il y a des milliards qui tombent, qui arrivent pour régler les problèmes. D'où viennent-ils et comment va-t-on les rembourser? Doit-on les rembourser et où va-t-on?
On essaie avec Gilles Boyer de développer cette idée que nous vivons, et le chapitre s'appelle « Les faux-monnayeurs ». Parce que chaque chapitre prend le titre d'un livre ou d'un film.
Ouais.
Et donc on a pris pour traiter de cette double question de la dette écologique et de la dette financière, le titre « Les faux-monnayeurs ». Parce que c'est un peu ce que nous vivons.
La santé n'a pas de prix. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, pour prendre en charge les malades, pour sauver des vies, quoi qu'il en coûte.
Mais est-ce qu'on va dans le mur ou pas?
Moi, j'ai deux convictions en la matière, qu'il était...
C'est oui ou non, hein.
Ouais, bah, je vais vous dire, j'ai deux convictions en la matière. Je pense que le quoi qu'il en coûte était justifié et qu'il fallait, face à cette crise sanitaire, dépenser ce qui était nécessaire pour permettre au maximum de gens de passer un cap redoutablement difficile. Mais ma deuxième conviction, c'est que ce quoi qu'il en coûte, à un moment, il va avoir un coût. Et je ne sais pas dire à quel moment. Aujourd'hui, nous continuons à emprunter quasiment à taux négatif, ce qui est d'une perversité et d'une forme de... On a vraiment l'impression que l'argent magique existe. Rendez-vous compte, vous êtes l'État français, vous demandez à des gens de vous prêter de l'argent, et quand vous leur demandez de vous prêter de l'argent, non seulement ils vous donnent de l'argent, ils vous le prêtent, mais en plus... Il vous donne un peu d'argent pour que vous acceptiez l'argent qu'il vous prête. C'est un truc de...
C'est Noël.
C'est magique. Bon, ça ne durera pas. Ça ne durera pas.
Mais comment on va régler ça?
La bonne solution, elle passe malheureusement pas par une mesure ou deux mesures ou trois mesures, elle passe par la constance de l'effort. Alors, je sais bien qu'en disant ça, je dois
ennuyer... Du sang et des larmes.
Je dois ennuyer tout le monde et tout le monde... Mais c'est la vérité. Tout ce qui se fait de grand se fait dans la constance et dans la cohérence. C'est comme ça. Si vous voulez transformer une ville, ça ne sert à rien de faire une chose. Il faut avoir une vision stratégique de où vous voulez arriver et travailler avec constance et avec cohérence.
D'accord, pour la ville, si mais pour
veut,
la dette. Pour la
si on veut revenir en maîtrise de nos finances publiques, parce qu'un pays qui abandonne la maîtrise de ses finances publiques, c'est un pays qui abandonne sa souveraineté, il faut se fixer un chemin de maîtrise de la dépense qui dure 10 à 15 ans et qui est rigoureusement respecté. Ça veut dire probablement, enfin, c'est pas que ça veut dire probablement, ça veut dire dépenser moins, ça veut dire faire des réformes dont on sait qu'elles ne sont pas populaires, dont on sait qu'elles ne sont pas attendues, mais qui sont indispensables. Je suis confus de dire à ceux qui nous écoutent qu'elles sont indispensables et que de ne pas les faire coûtera demain beaucoup plus cher. La réforme des retraites, qui passe par un travail plus long tout au long de la vie. C'est comme ça. Je sais que pendant longtemps, le progrès a été vu à l'aune du « on va travailler un peu moins tout au long de sa vie ». Moi, je pense que le progrès de demain, c'est de faire en sorte que nous puissions conserver une forme de prospérité et de souveraineté et que ça passe par un travail qui est heureusement moins pénible aujourd'hui qu'il l'était il y a 100 ans et qui sera probablement un peu plus long au cours de la vie parce que la vie est plus longue.
Ce sera le programme du prochain président.
Je ne sais pas si ce sera le programme du prochain président. Ce que je sais avec certitude, c'est que tous ceux qui expliqueront que ce sujet n'est pas au cœur des 5 prochaines années, tromperont les Français.
On se retrouve pour une dernière partie dans quelques instants et nous évoquerons vos goûts musicaux, ce sera une partie plus légère. Nous évoquerons aussi des lapsus dont vous parlez avec délectation dans votre livre. À tout de suite.
Europe Soir.
Michel Denisot, Édouard Philippe, une rencontre.
Dernière partie de ce rendez-vous avec Édouard Philippe à la mairie du Havre. On n'a pas parlé de votre famille, vous ne parlez pas de votre famille, vous n'exposez pas votre famille. Vous avez une femme et 3 enfants, c'est tout ce qu'on peut savoir et on n'a pas besoin d'en savoir plus.
Je vous le confirme.
Mais quel est le rôle de votre famille quand vous prenez des décisions, quand vous décidez de vous présenter au Havre, alors que vous auriez pu vous présenter à Paris? Est-ce que vous décidez seul ou est-ce que votre femme et vos enfants échangent avec vous là-dessus?
Un peu des deux. Parfois, il y a des décisions qu'on prend seul parce que, au fond, c'est à vous de les prendre. Et dans les décisions professionnelles que je prends, c'est-à-dire dans les dossiers que je gère au Havre ou que je gère à Matignon, je prenais les décisions non pas seul, mais sans mêler ma famille. Elle n'avait pas à en connaître. Après, pour les décisions très personnelles, oui, bien sûr, il y a des échanges. Je parle beaucoup. J'essaie de parler beaucoup avec mes enfants et bon, ils ont une vision du monde qui est la leur. Et qui est intéressante et qui me fascine à bien des égards. Donc oui, j'essaie de. On est une famille.
Qu'est-ce qu'ils vous disent sur ce que vous faites?
Et ben, je vois chez eux, comme d'ailleurs dans la génération dont ils sont membres, une inquiétude parfois sur le futur, une préoccupation environnementale qui est très profonde. Qui est associé à une forme d'inquiétude très profonde et un regard sur les choses qui est évidemment un peu décalé par rapport à ma génération ou par rapport à la façon dont moi je me suis formé aux affaires publiques. Mais je pense que ce que je vis, chaque Français le vit avec ses enfants. Tous les gens qui, comme moi, ont une 50aine d'années voient des enfants qui lisent moins que ce que... Ils lisent moins que moi, je lisais à leur âge. Et en même temps, ils ont une culture qui est très différente. Ils regardent énormément de documentaires, regardent énormément de conférences. Ils ne se cultivent pas, ils n'ont pas la même relation au monde que celle que j'avais moi. Ils sont évidemment beaucoup plus sur leurs écrans que nous ne l'étions, pour une raison assez simple, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'écrans. Bon, donc ces différences, parfois inquiétantes, je dois dire, en tout cas parfois mystérieux. Et en même temps, il y a toujours cette... qualité d'échange, de discussion.
Est-ce qu'ils vous ont fait changer d'avis sur certains sujets?
Oh, ils m'ont fait évoluer sur certains sujets, bien sûr. Par exemple. Bon, probablement, ils m'ont fait évoluer un peu sur les questions environnementales, sur les questions... Oui, sans doute. Sans doute, parce que c'est très présent chez eux, et ça n'est pas un effet de mode. Je pense que c'est quelque chose d'essentiel chez eux. Et ça veut dire quelque chose, et ça veut dire qu'on doit répondre à cette question essentielle et à cette forme d'inquiétude très forte. De cette génération, sur ce sujet-là comme sur d'autres.
Dans votre bureau de la mairie du Havre, il y a beaucoup de photos, de très belles photos, de grands photographes. Et il y a aussi des photos de boxe. Vous pratiquez la boxe. Est-ce que la boxe est d'abord l'art de l'esquive ou l'art de donner des coups?
C'est le noble art et c'est l'art. C'est les deux. C'est l'esquive et les coups. C'est un sport que j'ai découvert tard. Je le regrette d'ailleurs parce que je me dis que si je l'avais découvert tôt, je serais meilleur.
Et vous le pratiquez, on ne le voit pas sur votre visage.
J'ai échappé au nez cassé, au nez caractéristique du boxeur. J'espère que d'ailleurs je continuerai à y échapper. Mais vous savez, moi je ne suis pas du tout un boxeur professionnel. Je suis un amateur avec un niveau au fond de débutant.
Quel plaisir vous y trouvez ?
J'y prends un plaisir absolument considérable. Et comme tous les gens qui font d'un sport sérieusement, parce que encore une fois, je ne revendique absolument pas un niveau exceptionnel, mais je revendique le sérieux avec lequel je me suis mis à la boxe. J'ai appris à la boxe plein de choses sur moi-même et probablement à maîtriser ma peur et probablement à avoir un peu plus confiance en moi et aussi une forme d'humilité. C'est assez étonnant comme à la boxe, la confiance en soi se conjugue avec l'humilité. Je sais que ça peut sembler curieux, mais tous les boxeurs...
L'humilité est aussi une forme d'orgueil acceptée par le plus grand nombre.
Peut-être. Ouais. Mais en tout cas, tous les boxeurs savent de quoi je veux dire. Ouais. D'ailleurs, je pense que tous les gens qui pratiquent des sports de combat savent ce que je veux dire sur la confiance en soi, qui est renforcée, et en même temps sur l'humilité, parce qu'il y a toujours quelqu'un de plus fort, et ça peut très très vite se démontrer.
Le coup de gong donné, Cassius Clay esquive avec brio, danse, tourne et virevolte. Il faut le dire, rapide, très rapide.
Il y a quelques personnages dans la boxe qui me fascinent.
Mohamed Ali était sur...
Mohamed Ali est partout
dans votre bureau.
Dans mon bureau, parce que j'ai une vraie admiration pour son esthétique, pour sa façon de boxer, pleine d'esquives, pleine de punch, pleine d'encaissement, pour le personnage à la fois truculent, vif, politique qu'il est. Mais il y a d'autres boxeurs qui comptent. Par exemple, je suis très impressionné par un boxeur très différent de Mohamed Ali qui s'appelle Sugar Ray Leonard, qui a une rapidité d'exécution qui est très impressionnante, qui lui aussi est un personnage assez fascinant, terriblement sympathique, et qui, quand il était sur un ring, évitait, et puis à rien moment où il rentrait il accélérait, ouais. Et c'était un rythme, mais vous le regardez aujourd'hui, c'est fascinant. Dans les bad boys de la boxe, vous avez Mike Tyson, bien entendu, qui lui est un personnage qui est moins sympathique, si j'ose dire, nettement moins sympathique d'une certaine façon, mais qui est sur le plan de la boxe et sur le plan strict de la boxe, quelqu'un de tout à fait fascinant parce que c'est un poids lourd, petit, avec un style, une vivacité, une rapidité qui n'est pas, pour le coup, qui est rare chez les poids lourds, et une hargne et un talent tout à fait exceptionnel.
Est-ce que tout ce que vous apprend à la boxe vous sert dans votre vie politique ?
Je crois que tout...
Est-ce que, par exemple, quand vous frappez quelqu'un à la boxe, vous pensez à quelqu'un d'autre ?
Non, pas du tout. Pas du tout. Non, je crois que ce qu'on apprend à la boxe, on l'apprend et on s'en sert dans sa vie. Peut-être dans sa vie politique, mais dans sa vie. Dans sa vie avec les autres, dans sa vie avec soi-même. Moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis mis à la boxe quand mon père est mort. Et c'était un moment difficile pour moi. Et le fait de pouvoir maîtriser cette énergie et cette insatisfaction, ça a beaucoup compté pour moi.
Le football au Havre, donc il y a une équipe de foot que vous suivez plutôt de près. Aujourd'hui, il y a un projet de Super League. Est-ce que vous êtes, c'est-à-dire une douzaine de grands clubs qui veulent monopoliser la Coupe d'Europe, est-ce que vous êtes favorable ou pas ?
J'ai vu dans la presse, vous voyez que il m'arrive de lire la presse, ce projet. Dont je n'ai pas d'ailleurs complètement compris les tenants et les aboutissants. Je n'ai pas compris combien de clubs étaient concernés.
12 pour l'instant.
Et je n'ai surtout pas compris comment est-ce qu'on rentrait dans ces 12 clubs. Comment est-ce qu'on...
Ils se choisissent entre eux.
Ouais. Écoutez, ce n'est pas la tradition qu'on a et ce n'est pas probablement l'esprit qu'on a sur les compétitions européennes. Et je dois dire que j'aime bien l'esprit actuel des compétitions européennes. Je regarde ça avec... un œil dubitatif. Et quand je dis dubitatif, ne cherchez pas le lapsus.
Très bien, non, on va y venir. On va enchaîner avec les lapsus. Vous faites ça avec gourmandise dans votre livre. Donc, il y a un certain nombre qui sont cités. Je vais reprendre quelques-uns. De Pierre Bérégovoy, donc, qui avait dit « baiser l'impôt sur les sociétés ». Claude Guéant qui parlait de god électoral. Brice Hortefeux d'empreinte génitale. De Rachida Dati de fellation quasi nulle. Et de Jean-Marie Le Pen qui parlait de peine de mort. Mais il y a vous aussi, évidemment, car vous avez dit, et vous pouvez le dire vous-même, si vous en souvenez évidemment,
Non, je m'en souviens très bien, mais je renonce à reproduire ce lapsus.
Et parce que la France est une nation qui veut continuer à sucer le grand jeu. Parce que la France est une nation, pardon, qui veut continuer à susciter des grands champions.
On me dit que les amateurs de rugby ont parfois l'esprit mal placé. Je ne peux pas le croire.
C'est terrible. Un lapsus, ça vous tue un discours. Ça vous tue une intervention. Vous savez, quand vous faites le lapsus, que de toute façon, la seule chose qui restera, ce sera ça.
Donc, on peut entrer dans l'histoire avec un lapsus.
Oui, bah, d'accord, mais enfin, vous préféreriez rentrer dans l'histoire avec autre chose. C'est affreux, le lapsus. C'est terrible parce que ça, alors, ça peut rendre sympathique quand vous en sortez à peu près bien. Ça peut rendre ridicule, et souvent, ça rend ridicule. Bon, mais pourquoi est-ce que j'aime ça? J'aime ça parce que j'aime la langue. Je trouve que les discours politiques, les discours en général d'ailleurs, l'écriture sont des exercices qui me fascinent. Je suis toujours impressionné par celles et ceux qui arrivent à trouver le mot juste, le verbe précis. Et le lapsus, c'est le petit grain de sable dans la mécanique. C'est l'acte manqué peut-être, c'est le retour du refoulé sans doute, c'est l'indicible qui s'affiche et qu'on pose sur la table.
Ah ouais, vous souriez comme jamais depuis le début de l'interview, c'est-à-dire que vous aimez ça. Quoi.
Non, je trouve ça souvent amusant. Alors évidemment, c'est toujours beaucoup plus drôle quand ça arrive aux autres. Mmh. Alors ça, c'est vrai. Mais quand ça vous arrive, et ben voilà, vous avez fait un lapsus, c'est comme ça.
Vos goûts musicaux sont très éclectiques. Vous travaillez toujours en musique.
Toujours.
Plus ou moins fort, et parfois vous montez le son pour réveiller vos collaborateurs.
Non, mais d'abord ça voudrait dire que mes collaborateurs sont endormis et non, ils travaillent beaucoup, ils dorment pas. Mais c'est vrai que parfois je monte le son parce que c'est agréable, parce qu'on tombe sur un bon morceau, parce qu'on a envie de décompresser un peu. Mais j'ai toujours travaillé en musique d'aussi loin que je m'en souvienne. Quand je révisais mon baccalauréat, je travaillais en musique, ça surprenait.
Et quoi, vous à voyez, cette époque-là, c'était Dire Straits.
Tout à l'heure, on parlait des différences entre les parents et leurs enfants. Mais mes parents ne comprenaient pas, quand j'étais lycéen, que je puisse travailler en musique. Parce que c'est vrai que je travaillais en musique. Et puis ça y allait, hein. Je mettais à l'époque beaucoup Dire Straits, remarquez, je le mets toujours. Donc ça prouve que mes goûts musicaux n'ont pas changé de ce point de vue-là. Ils ne comprenaient pas comment c'était possible. Ils me disaient, mais tu ne travailles pas. Je dis, si, je vous assure, je travaille vraiment. Bon, et j'ai continué. J'ai toujours travaillé en musique. J'écris en musique. Quand j'écris, vous écoutez quoi ? J'écris sur mon ordinateur et j'écris en musique. Alors, c'est assez varié. Il y a évidemment ceux que j'aime particulièrement, Bruce Springsteen, Mark Knopfler.
C'était Bruce Springsteen dans votre livre.
Oui, parce que c'est vrai que c'est une admiration d'adolescent qui ne s'est pas démentie depuis. Mark Knopfler et d'ailleurs Straits, c'est vrai, j'aime beaucoup aussi, j'écoute énormément. Et puis, il y a toute cette partie du rock des années 70 que j'aime beaucoup, 80 aussi. J'aime beaucoup Bob Dylan.
Est-ce que vous connaissez le chanteur à vrai Little Bob Story?
Évidemment que je connais Little Bob, je le connais à la fois en tant que musicien et chanteur, mais je le connais aussi en tant qu'homme. J'ai beaucoup d'estime pour lui parce que c'est un vrai caractère. En plus, il est terriblement à vrai. Terriblement à vrai dans ce que le Havre a de plus attachant, d'enracinement et en même temps d'aspiration à une forme d'universalité, dans l'énergie. Je l'aime beaucoup. J'écoute aussi la musique classique quand je travaille. Le soir, quand la nuit tombe, les nocturnes de Chopin, ça vous ravit l'âme quand même. Hein. Donc voilà, j'écoute beaucoup de chansons, beaucoup de musique classique. Alors ça, oui, c'est vrai que ça surprend parfois un peu. Il y a des gens qui ont du mal à se concentrer. Alors du coup, je laisse la musique. Comme ça, ça les déconcentre. Et ça peut être extrêmement précieux dans une négociation.
On va terminer avec une dernière question concernant les séries que vous suivez. Beaucoup de séries ou de films parlent de la vie politique. Quelle est celle ou quel est celui qui vous inspire le plus et qui pourrait vous ressembler?
Ressembler, je n'irai pas jusque-là, mais j'aime bien les séries. J'y retrouve au fond les feuilletons du 19e, enfin le même esprit que... Je pense que si j'aime les séries, c'est parce que j'aime Alexandre Dumas. Et si j'aime Alexandre Dumas, j'aime les séries. Parce qu'il y a cette espèce de rendez-vous qui revient, mais d'évolution, d'histoire, dans lequel on prend son temps et on raconte des détails qu'on ne raconterait pas dans un film ou dans un roman plus bref. Et je trouve que c'est assez réjouissant. En ce moment, je suis en train de regarder une série italienne qui s'appelle Il Processo, qui raconte l'histoire d'une enquête. Ça se passe à Mantoue et d'un procès pénal. Et comme j'ai une grande fascination pour l'Italie et que je ne désespère pas un jour de réussir à parler l'italien, je la regarde en italien et mon italien progresse. Beaucoup trop lentement à mon goût, mais il progresse.
Dernière question, s'il y avait une série qui devait raconter votre vie, quel en serait le titre ?
Mais j'espère que personne n'aura l'idée incongrue d'essayer de raconter ma vie, ça n'a aucun intérêt. Elle serait chiante à mourir, cette série. Non, ça vraiment, je ne sais pas.
Vraiment ?
Ben oui, mais je ne suis pas sûr que... Non, je ne suis pas sûr que ce serait passionnant. Non, je suis même assez certain du contraire. C'est probablement assez banal. Ben oui, probablement. Enfin, en tout cas, moi, je la trouve ordinaire.
Merci beaucoup.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h39, on débriefe donc ensemble cet entretien exceptionnel d'Edouard Philippe, réalisé par Michel Denisot, qui est toujours à mes côtés. Rebonsoir Michel.
Bonsoir.
Avec
bien.
Également Charles Villeneuve. Bonsoir Charles. Et Aurélie Herbemont, chef adjointe du service politique d'Europe 1. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir.
C'est un entretien, Michel Denisot, absolument passionnant, parce qu'on y découvre une autre facette de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe. Et on sent qu'au fur et à mesure des questions, au fur et à mesure des minutes qui passent, ça dure quasiment une heure, il finit par laisser transparaître, comment dirais-je, fendre l'armure d'une certaine manière. Et on a l'impression d'avoir l'homme derrière le visage politique.
Oui, je crois qu'il a mis deux choses dans sa vie, quoi, sa vie politique et sa vie personnelle. Et donc, comme il le dit lui-même, donc on voit que sa vie de famille, finalement, il n'en parle pas beaucoup, mais il finit par en parler. Et tout ça est évidemment indissociable, comme pour nous tous. Et je crois qu'au fur et à mesure, oui, sans vouloir se dévoiler, il parle. Et il se dévoile parce qu'en fait, on aime tous plus ou moins ça à un moment ou à un autre de notre vie.
Il choisit ses mots quand même. Ouais. À chaque fois, il choisit ses mots, on sent qu'il choisit ses réponses. Il a toujours été comme ça d'ailleurs, y compris dans les interviews télévisées quand il était Premier ministre. Mais on sent qu'il il fait vraiment attention à ce qu'il
veut
dire.
C'est très réfléchi, oui. Ouais. Son propos est très réfléchi, quel que soit le sujet.
Alors on va rentrer dans le détail. Charles Villeneuve, peut-être un mot général. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez retenu?
Moi, j'ai retenu, si vous voulez, il parle de son modèle, Georges Pompidou, dans son livre aussi, évidemment. Et Pompidou a eu beaucoup d'amertume quand il a été limogé en 68. Et cette amertume, évidemment, l'a conduit à devenir président de la République. Et moi, je me demande si, finalement, Édouard Philippe n'en a pas un tout petit peu lorsqu'il est revenu sur un sujet important qui lui tenait à cœur.
Oui.
C'est-à-dire le travail, et surtout de travailler beaucoup plus long compte tenu de la dette.
Et puis les retraites, il a aussi parlé du dossier des retraites, on va en parler.
Quand il dit le progrès de demain, c'est de travailler plus longtemps, il revient sur la réforme de retraite qui a été abandonnée. Et je pense qu'il en a un peu sur la patate, si j'ose dire, en choisissant mes mots, à l'inverse du Premier ministre, de l'ancien Premier ministre. Mais cette réforme, il lui tenait à cœur.
Alors, on y reviendra.
Et c'est la raison pour laquelle il est revenu, à mon avis, assez longuement et dans le détail, je trouve.
On y reviendra sur la question des retraites. C'est vrai que vous évoquiez le parallèle avec Georges Pompidou. Il y fait souvent référence, nommé à Matignon en 62, qui était un gestionnaire comme lui, un homme de lettres, un littéraire, conservateur, épris de modernité aussi, et qui plus est, un homme de devoir. Qu'avez-vous retenu, vous, de cette longue interview, Aurélie Herbemont?
Alors, moi aussi, j'ai beaucoup retenu le passage sur la dette et les retraites, puisque en fait, Édouard Philippe, ce qu'il fait avec son livre et ce qu'il fait dans les quelques interviews qu'il a déjà fait depuis la sortie du livre, c'est de façonner son personnage politique aux yeux de l'opinion. Oui. Et clairement, Édouard Philippe, il avait déjà ce caractère-là quand il était Premier ministre, mais il faut gérer les cordons de la bourse, sinon on va avoir des petits problèmes.
Là, c'est la journaliste politique qui parle.
C'est la journaliste politique qui parle, c'est vrai. Et voilà, il continue à façonner son personnage. La gestion des deniers publics, c'est important. Donc, ça peut servir pour la suite, puisqu'il veut continuer à être un acteur du débat politique.
Alors moi, Michel Denisot, il y a un passage qui est plus anecdotique, que je retiens aussi. Dans son livre « Impressions et lignes claires » avec Gilles Boyer, il raconte la peur qu'il a eue à l'approche d'entrée à Matignon. Il n'avait plus d'appétit, il perd plusieurs kilos, et il angoisse 8 kilos, et il angoisse à l'idée de la fonction qu'il attend. Et quand vous lui posez la question sur la boxe, c'est le premier truc qu'il répond, la boxe m'a appris à dompter ma peur. Ça montre aussi qu'il n'est pas toujours complètement sûr de lui par rapport à l'image publique qu'il laisse transparaître.
Je crois que oui, c'est, le parallèle est juste avec des boxeurs. J'avais interviewé Mike Tyson à une époque aussi pour Canal+, et qui me disait que la chose la plus humiliante pour lui, c'était le moment où il montait sur le ring, parce qu'il voyait que des gens qui le regardaient pour qu'éventuellement il perde et qu'il se fasse taper dessus. C'est vrai qu'à un moment donné, monter sur le ring, c'est un acte très fort,
oui.
et combattre, c'est un acte très fort. Et donc, je pense que j'ai fait ce type d'interview dans quelqu'un de très différent avec Akhenaton il y a 8 jours aussi pour Europe, et qui me disait exactement la même chose. Il avait combattu son angoisse, son inquiétude, et c'est aussi sa peur de parler en public, sa peur de s'exprimer en faisant de la boxe.
Bien, on va revenir sur plusieurs moments clés de cette interview, et notamment le moment où il évoque évidemment son départ de Matignon.
Ce quoi qu'il en coûte, à un moment, il va avoir un coup. Et je ne sais pas dire à quel moment. On a vraiment l'impression que l'argent magique existe. Ça ne durera pas. Ça ne durera pas.
Mais comment on va régler ça ?
La bonne solution, elle passe malheureusement pas par une mesure ou deux mesures ou trois mesures, elle passe par la constance de l'effort. Et c'est la vérité. Tout ce qui se fait de grand se fait dans la constance et dans la cohérence. C'est comme ça.
Voilà, c'est pas tout à fait le départ de Matignon, mais c'est pas grave. Ça va nous ouvrir le volet aussi que vous évoquiez sur la dette et les retraites. Et là, quand même, Charles Villeneuve, on sent pointer l'élève d'Alain Juppé, qu'il est et qu'il restera. La droiture, les réformes, le poids des responsabilités, c'est aussi ça qui transparaît dans ce moment de l'interview.
C'est pour ça que je pense, moi je l'ai vu, j'ai passé une soirée et même une nuit presque entière à la fête de l'infanterie de marine, parce que vous savez que c'est un ancien artilleur de marine, un bigorre, oui, comme on dit. Et je l'ai vu chanter, évidemment, tous les chants, même les plus paillards de l'infanterie de marine. Mais en même temps, j'ai vu en lui, si vous voulez, une certaine loyauté. On a un peu parlé, évidemment, on n'a pas parlé de politique, etc., et de ses rapports avec le président. Mais je pense que là, avec ce livre et cette interview, et évidemment, ça toutes les autres interviews, pour l'heure, il veut peser. Il veut compter, il veut exister, faire vivre son capital politique. Mais je pense qu'il sera profondément royal. Je ne pense pas qu'il franchira le Rubicon. Je pense qu'il s'est condamné lui-même à être un candidat de substitution.
Oui, de substitution.
Et deuxième pilote, quoi. Et deuxième pilote dans l'écurie.
Oui. Mais il a un plan de vol. Ouais. Alors, je ne sais pas quand il deviendra le... Il y a plusieurs échéances. Et qui sera commandant de bord.
Il y a plusieurs échéances. Le départ de Matignon, on a retrouvé le bon extrait. On y va, on écoute.
Le fondement de la relation entre un Premier ministre et un Président, ce n'est pas une relation d'amitié ou une relation d'amour. C'est une relation de confiance et de travail. Et de bon travail. Ça ne veut pas dire que tout ce qu'on a fait, on l'a bien fait. J'en suis parfaitement conscient. Enfin, on a fait beaucoup de choses aussi et j'en suis aussi assez fier. Ensuite, il y a une prérogative qui est une prérogative absolue du Président de la République, qui est le signe de sa prééminence au sein des institutions. Il choisit son Premier ministre. Quand il a envie d'en changer, il en change.
Alors, je voudrais, Michel Denisot, qu'on en dise quelques mots.
S'il avait envie de rester, voilà, il y a un petit blanc.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire, parce qu'on sent poindre un moment de vérité assez profond. La décision est connue le vendredi 3 juillet, 9h31, quand tombe la dépêche AFP. Édouard Philippe a remis la démission du gouvernement au président de la République, qu'il a accepté. Et c'est vrai que quand vous lui posez la question, il y a un long silence et on sent qu'au fond, il a un regret de ce départ.
Oui, c'est certain. Je pense qu'on a fait référence aussi au papier d'Hervé Gattegno dans le Journal du Dimanche, qui détaillait ça très très bien sur 5 ou 6 pages. Hein, donc il reconnaît d'ailleurs que dans ce papier, tout est vrai, même s'il trouve que ce papier est beaucoup trop long par rapport à ce que ça représente, etc. Mais enfin bon, ça montre aussi l'importance qu'il a pris dans la vie politique aujourd'hui. Et s'il a fait cette interview aussi, s'il fait ce livre, s'il fait tout ça, c'est pas évidemment uniquement pour passer à la radio et à la télévision qu'il fait tout ça, c'est pour prendre date et pour être sur la grille de départ, comme je disais tout à l'heure. Alors, où sera-t-il sur la grille de départ dans un an ? Personne ne le sait.
Oui, c'est toute la question, parce qu'il y a quand même un élément qui va peser dans sa décision d'ici un an, c'est la trahison. Il va devoir trahir s'il se lance dans la course à l'Élysée en 2022. Et il dit quelque chose qui est repris dans le papier de Gattegno dans le Journal du Dimanche. C'est un ancien collaborateur qui dit cela. Il dit « Macron-Philippe, c'est la rencontre du type le plus soupçonneux du monde avec le type le plus susceptible du monde. Un parano et un orgueilleux, ça ne pouvait pas être simple. » Est-ce que c'est aussi compliqué que ça, leur relation aujourd'hui, Aurélie Herbemont ?
Leur relation aujourd'hui, déjà, est surtout un petit peu distante entendu, parce qu'ils ont dîné ensemble au début du mois de mars. Sinon, ils se sont appelés quelques fois depuis le départ de Matignon. Mais c'est vrai qu'Edouard Philippe, dans l'absolu, il aurait bien continué à Matignon. D'ailleurs, quand j'en avais discuté avec lui il y a quelques mois, je lui avais dit, mais au moins, vous n'avez pas à gérer la difficulté de cette crise sanitaire qui revient. Et il m'avait dit, mais moi, j'aimais bien gérer des choses difficiles.
Mais il l'a vécu comme une injustice, ce départ ?
Il l'a vécu, disons qu'il savait très bien qu'il remettait son avenir entre les mains d'Emmanuel Macron, parce qu'il n'y a que le président qui peut décider, sauf si vous êtes dans un cas très particulier, type Chirac 76, qui s'en va et qui décide de partir. Sinon, c'est le président qui a la main. Donc, il avait fait une interview d'ailleurs en expliquant qu'il remettait son destin entre les mains d'Emmanuel Macron.
Vous vous souvenez la déclaration qu'il avait eue au printemps 2018 ? Il avait dit en privé, jamais je ne ferai quoi que ce soit contre Macron, ceux qui pensent ça sont ceux qui n'y connaissent rien ou ceux qui, à ma place, le ferait. Et dans son livre « Ligne claire », il dit ceci. « Si Juppé avait été élu, j'aurais peut-être été nommé, allez, à la limite, ministre du budget. Macron m'a donné beaucoup plus. Je ne pourrais jamais l'oublier. Peut-il le trahir, Charles Villeneuve ?»
Non, moi, je ne crois pas. Il est en réserve et il émet des réserves aussi, de toute façon, par rapport à son lien avec le président de la République. Et d'ailleurs, pour poursuivre ce que tu disais, c'est que finalement, il avait pris la main sur le président de la République dans la gestion du Covid, et notamment à travers ses conférences de presse que tout le monde, de toute façon, regrette.
Oui. Pour la stratégie de déconfinement. Et c'est là où la ligne de fracture est apparue.
Oui, non, mais en même temps, il dominait, moi je trouve, justement, au niveau de la communication, le président là-dessus. Et je crois que le président ne pouvait que finir par se séparer. Et on a très bien vu la montée, si vous voulez, en puissance, justement, de ce divorce obligatoire. Mais ce que je trouve assez intéressant, on parlait tout à l'heure, Michel Denisot parlait de la grille de départ dans un an. Moi, je parlais de son plan de vol. Et regardez comme il cultive, justement, cette grille de départ. Regardez le nombre de maires, notamment des Républicains, mais pas seulement, de gauche, des dialogues qu'il a engagés avec un certain nombre, ne serait-ce qu'avec le maire de Cannes, Lisnard, mais pas seulement, où il va voir, avec beaucoup de précision, il va avoir un entretien avec le président du Sénat, et puis avec Xavier Bertrand, avec qui il a parlé extrêmement longuement, etc. Oui. Donc, ce plan de vol, il le travaille. Maintenant, reste à savoir quand il deviendra le commandant de bord.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous posez la question assez directement, dès le début de ce grand entretien, sur les ambitions en 2022. Alors, vous le faites assez subtilement, Michel, parce que vous lui dites, est-ce que la question ne se pose ou est-ce que la question ne se pose pas ? Il n'exclut pas. Non. Il n'exclut rien. Il aurait pu démentir et dire, ça n'est pas mon sujet. Il parle d'abord de projet, de parti, avant de parler de rencontre entre, comme disait De Gaulle, un homme et son peuple.
Oui. Il laisse rouler les dés. Voilà.
Et l'entretien.
Et votre sentiment à vous ?
Mon sentiment, c'est très difficile parce que aujourd'hui, les choses vont beaucoup plus vite que dans la vie politique qu'on a connue, Charles et moi, dans le passé. Quoi. On voyait arriver les gens. Aujourd'hui, on ne voit pas forcément arriver les gens. Le cas d'Emmanuel Macron en est évidemment un symbole très fort parce que deux ans avant, on ne connaissait pas. Et il a fracturé la gauche et la droite. C'était totalement imprévisible.
Y compris François Hollande, hein, qui était sur la grille de départ.
Il a commencé par dribbler François Hollande. Et donc. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer dans un an. Très franchement, ce qui est sûr, c'est qu'il compte compter. Voilà. Ouais. Et alors, comment comptera-t-il et jusqu'où comptera-t-il ?
Alors, sur son corpus idéologique.
Mais tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour ça. Faut pas non plus.
C'est pour peser, bien évidemment. C'est pour peser. Et parce que c'est vrai que toute la Macronie, évidemment, surveille comme le lait sur le feu la moindre des phrases d'Edouard Philippe. Parce que si vous voulez faire taire les spéculations, ce serait très facile. Il suffirait de dire je souhaite évidemment la réélection d'Emmanuel Macron.
Mais
et je
le soutiendrai. Comme ça.
Il ne le dit pas.
Et puis, il a une popularité qui est assez inégalée. Regardez les dernières enquêtes Ipsos, le point, 54% d'opinion favorable, 72% chez les Républicains, 96% chez La République En Marche. Alors il y a quelque chose d'assez étonnant quand on regarde dans le détail les chiffres, c'est que dans le même temps, quand on pose la question à l'ensemble des Français, seul 8% le qualifie de sincère et 7% proche des Français.
Je crois qu'il y a encore un peu de boulot à faire. Qui sont qualifiés de sincères de manière générale dans les sondages.
Mais parce que je pense profondément qu'il ne faut pas confondre la popularité avec le capital politique. La popularité, ça se dilue comme une volute de fumée dès lors que vous rentrez dans l'action. Et le jour où il rentrera dans l'action, c'est la raison pour laquelle, auparavant, il travaille comme il le fait, son capital politique, ses appuis, ses réseaux. C'est la raison pour laquelle cette ambiguïté qu'il entretient et qui irrite la Macronie, comme tu le disais il y a quelques instants, de toute façon, elle l'irrite profondément parce que c'est vrai qu'on entend pas mal de remarques quand on en rencontre, notamment des piliers même de la Macronie et même des membres du gouvernement qui appartiennent à cette Macronie. Mais il n'empêche que Édouard Philippe, pour la, et je pense qu'il a le caractère, il a la moelle, si vous voulez, il a le fighting spirit aussi. Oui. Hein, c'est ce qui laisse transparaître dans sa passion pour
c'est
la boxe
Baron.
Et pour le sport. Comment ?
C'est pas François Baroin.
Non,
qui hésite et qui finalement n'y va pas. Est-ce qu'il reste un homme de droite ? J'ai un peu la réponse à ma question quand j'entends l'interview que vous avez réalisée.
Ouais, il était rocardien quand il était étudiant. Ensuite, il est devenu UMP républicain et aujourd'hui, il est nulle part. Et il n'a pas été, il n'est pas à La République en marche.
Mais quand même, quand il parle de la dette, des retraites, de ses convictions, on sent qu'il reste un homme de droite, profondément de droite.
Oui, certainement. Oui. Il a dit qu'il était homme de droite dès le début, donc je pense qu'il ne veut pas.
Il est surtout pragmatique.
Et puis il y a cette phrase de Churchill qu'il cite dans son livre et qu'il répète d'ailleurs dans l'entretien. Je préfère ceux qui changent de parti pour rester fidèles à leurs idées que ceux qui changent d'idées pour rester fidèles à leur parti.
Il aime beaucoup cette phrase. Il l'a redit dans l'interview aujourd'hui. Elle est dans son livre, comme vous l'avez dit. Et donc je pense que ça lui va bien.
Aurélie.
Et pour l'instant, il est dans une situation très paradoxale, c'est que il est à la fois très populaire. Mais pour en faire quoi ? Il est finalement pas maître de son destin, Édouard Philippe, parce que la trahison ultime qui serait d'aller contre Emmanuel Macron, franchement, je le vois pas se lancer dans ce genre de combat, parce que ça pourrait lui être reproché. Sa loyauté était constitutive de son capital sympathique.
Sauf si le président est empêché.
Vous avez raison. Là, évidemment, ça change absolument tout. Mais il n'est finalement pas maître de son destin, parce que il est populaire, mais pour faire quoi pour l'instant ? Donc il construit son personnage et il voudra peser. Et s'il doit finir par soutenir Emmanuel Macron, ce qui arrivera peut-être, il le fera avec un certain tarif.
Et en même temps, 2027, c'est loin quand même, Michel Denisot.
Parlons de 2022, en fait, il est assez juppéiste dans son comportement, quoi. C'est-à-dire qu'il est légitime et fidèle et il respecte.
Mais il est fidèle, mais il n'est pas nigaud,
Non.
Loyal mais libre, c'est le grand élément de langage, peut-être plus libre que loyal en ce moment.
Quand on fait une interview comme ça, il y a toujours des questions qu'on regrette de ne pas avoir posées, évidemment.
Oui,
ça, on fait pendant une heure, hein, vous connaissez ça.
Là,
je regrette de ne pas lui avoir demandé comment pourrait-on être fidèle et libre.
Bonne question. Si Édouard Philippe nous écoute, on lui posera la prochaine fois.
Merci infiniment.
Merci infiniment, Michel Denisot. Merci Aurélie Herbemont. Merci Charles Villeneuve. Merci à tous les trois.
Europe 1. Écoutez le monde changer.